tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix d'Espagne. Oui, le Grand Prix d'Espagne qui pour une fois n'a pas été chiant, il a même été mieux, il a été historique, il a été du tonnerre. Pour m'accompagner, comme d'habitude, bonsoir Dino.
Bonsoir Sidi.
Ça va ?
Tu pètes les flammes ?
Ah oui ! Arrête, on a peut-être une victime.
Oui, c'est vrai. Ah oui, oui, non, il faut le dire.
Il faut le dire.
Il faut le dire. Ben, s'il te plaît, reviens. On sait que, on a envoyé Ben à Barcelone et il était pas loin apparemment et en fait, il est, à un moment donné aussi, il y a eu le feu en fait. Il y a Ben, bon, il est venu nous dire, il y a le feu, puis depuis on a plus de nouvelles. Alors Ben, si tu nous écoutes, donne des nouvelles.
Ce soir, le 15 mai, il est comme dans un film de Chuck Norris, il est porté disparu.
Voilà. Donc Ben, si tu
vis.
Bah, si tu vis, tu nous préviens, et si tu meurs, tu nous appelles aussi parce qu'il faut qu'on trouve un remplaçant pour le mag la semaine prochaine, et c'est vrai que c'est un peu la merde sinon, tu vois,
oui.
On lançait des candidatures et tout, mais sinon on souhaite que t'ailles bien, tu vois, hein. Non, sincèrement, c'est inquiétant, on n'a pas de nouvelles depuis 2 jours.
C'est pas la mort.
Arrête! Il a même pas tweeté!
Voilà, il a pas tweeté, il a même pas fait cette chronique hier. Mais de quoi il va faire l'autopromo la semaine prochaine, tu dis? Et donc, Shinji, ce soir, nous ne sommes pas seuls.
Eh bien, avec nous, ce soir, il y a Clément. Bonsoir, Clément.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Et bienvenue.
Oui. Ben, merci.
Ah, les fans de Fernando sont toujours bienvenus dans cette émission. Surtout les fans qui sont fans de la période Ferrari, mais bon, on accepte toutes sortes de fans de Fernando.
Alors, messieurs, comme d'habitude, je vais commencer cette émission en vous demandant, qu'avez-vous pensé de ce week-end, plus que cette course, parce qu'il est, ouais, on va dire ce week-end.
Moi, je trouvais passionnant. J'ai adoré.
C'est vrai.
Surtout, ouais, les essais, les qualifs, la course, enfin, c'est un tout que, franchement, rien à redire, quoi.
Par rapport à souvent ce qu'on dit du Grand Prix d'Espagne et du circuit de Catalunya, ça a été intéressant.
Ce qu'on dit du circuit, c'est un beau circuit quand même,
ah,
par
oui,
rapport
oui,
à ce qu'on a dans la saison.
Mais souvent, le problème, comme il y a beaucoup d'essais, c'est que ça donne des courses souvent un peu chiantes. Là, quand même, c'était intéressant. Toi, Tino ?
Moi, j'ai eu, à un moment donné, pendant la course, un peu le même sentiment que la Chine l'an dernier. C'est-à-dire que je crois qu'au bout de 30 minutes, de course, je me suis dit, bon, je vais renoncer à regarder le classement, parce que c'était le bordel. Voilà. Après, la course s'est un peu calmée, c'était plus facile à regarder, mais je trouve que c'était un peu trop spectaculaire ce week-end à mon goût.
Non, mais c'est vrai qu'on a eu, j'ai pas forcément trouvé ça complexe dans le déroulement, mais c'est vrai qu'on, alors que bizarrement, en règle générale, l'Espagne c'est souvent considéré comme très significatif. Là, j'ai l'impression qu'il y a un côté bizarre.
C'est-à-dire?
Dans les résultats. C'est-à-dire que
c'est naturel, tu dis. Maldonado devant Alonso. Il n'y a rien de pas normal.
Est-ce que le Mugello n'y serait pas un petit peu pour quelque chose à un Grand Prix plus passionnant avec les améliorations sur la voiture? Genre pour Ferrari,
non,
par exemple.
Sincèrement, je pense que Ferrari, oui. Williams aussi. Mais je pense surtout c'est que vraiment c'est les différences de pneus entre les deux mélanges Pirelli et les caractéristiques du circuit qui est un circuit très abrasif et compagnie qui ont fait que c'était animé et en plus le fait que comme l'a très bien expliqué dans les previews, sincèrement je vous conseille de lire les previews que l'on fait de Caterham parce que le point de vue de Kovalainen est toujours très intéressant, il vise toujours relativement juste et il disait que ce week-end ce qui était intéressant c'est que la moindre erreur se paye cash.
Ah oui,
et comme tout le monde le connaît très bien, il faut vraiment avoir le réglage parfait. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que là vraiment ce week-end, on s'est rendu compte que c'est un circuit quand même très atypique dans la saison, parce que c'est le seul circuit que tout le monde maîtrise. Et donc du coup, ceux qui connaissent bien leur voiture, ça resserre un peu la hiérarchie.
Après, on va y revenir, mais on n'est quand même pas passé loin d'une course chiante. J'ai envie de dire à 2 litres près, ça aurait pu être une course chiante. Donc messieurs, rappelons que dimanche nous étions le 13 mai.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Donc je vous rappelle, je vous donne un chiffre qui a rapport à un événement qui a eu lieu le même jour, donc un 13 mai. Et ce chiffre, cette semaine, c'est le chiffre 295 638. Et ce n'est pas le nombre de fois où on a entendu le mot DS5 ces dernières 48 heures.
Est-ce que c'est un rapport avec la F1 ?
C'est un code barre.
Non, je crois pas.
C'est un code barre, c'est juste.
Ce n'est pas un code barre.
Ça a un rapport avec l'aérospatial ?
Ça, c'est comme pour la F1, ça pourrait, mais je suis pas sûr. Enfin,
C'est technologique alors ?
Oui, c'est technologique.
C'est une innovation ?
Oui.
Rapport avec une voiture en général ?
Ça pourrait être dans une voiture.
Un véhicule plutôt, un truc motorisé ?
Non.
Non, sur du GPS ?
Non.
Tu peux redire le chiffre s'il te plaît ?
295 638.
Est-ce que le chiffre est une somme d'argent ?
Non.
C'est un nombre de choses ?
Non.
Un nom de code ?
C'est-à-dire ?
Un numéro de série ou un truc dans le
ouais,
genre.
Plutôt.
Donc c'est le numéro 296 000
ouais,
voilà.
Machin.
Ouais,
comme ça.
Est-ce qu'on l'utilise couramment ?
Oui.
Ouais, dans la vie de tous les jours ?
Ça peut être utilisé dans la vie de tous les jours.
Une Ferrari ?
Non.
Un hélicoptère ?
Non.
Un jet privé ?
Non plus.
Une Citroën DS5 ?
Non plus.
C'est un objet du quotidien ?
En soi, c'est plus une... ça peut faire partie d'un objet. Tout seul, ça sert à rien.
Est-ce que c'est un élément d'ordinateur ?
Non, il y en a pas dans les ordinateurs. Enfin, je crois pas. Enfin, s'il y en a, c'est des gens qui ont des ordinateurs bizarres. Donc non.
Attends, donc c'est un objet seul, on peut pas l'utiliser.
Ça peut être utilisé seul, mais ça n'aurait aucune utilité.
Je n'ai même pas imaginé comment on pourrait s'en servir seul.
Non, ce serait très con. Je te le dis tout de suite.
Est-ce que l'autre appareil qui permet d'utiliser, il peut fonctionner sans lui ?
Ça peut être utilisé dans plein de types d'objets, en fait.
Ah.
C'est pas rattaché à un objet en particulier.
Ah, d'accord.
C'est un support de stockage ?
Non.
Rapport avec l'informatique ?
Pas du tout.
Avec la cuisine ?
Non, pas spécifiquement.
Je sais pas, avec les vêtements ou un...
Oui.
Oui. Ah.
C'est le nombre de mailles qu'il y a dans le pull de Ross dans l'épisode de Friends où on apprend que Ross est le père de l'enfant de Rachel.
Tu as toi-même trouvé que ce n'était pas un nom de quelque chose.
Ça rapporte les vêtements, que des vêtements ou ça peut aussi rapporter quelque chose d'autre?
Oui, ça peut être rapport à autre chose.
Ah.
Mais on n'est jamais très loin du vêtement.
D'accord.
Donc un objet lié au fringues. Le fer à repasser ?
Non.
Machine à laver ?
Non.
Le sèche-linge ?
Non. Je peux vous dire qu'en soi, c'est un brevet qui a été déposé en Suisse, mais ça ne vous aide pas du tout.
Merci.
Le porte-manteau ?
Non.
Est-ce que ça concerne directement le vêtement ou est-ce que c'est quelque chose qui est périphérique à l'univers du vêtement ?
Non, en général, ça fait partie du vêtement.
Le bouton pression ?
Non.
La braguette ?
Je peux même vous dire le nom du créateur, parce que ça va pas vous aider.
C'est
Georges de Mestral.
Ah ben oui.
Bien sûr.
Mais voyons, Georges de Mestral, tu te rappelles pas ? On l'a vu en cours d'histoire, c'est bien.
Ça s'utilise sur un vêtement particulier ou ça peut être sur...
Sur plein de vêtements particuliers.
Ça permet de serrer quelque chose ?
Ça peut permettre de serrer quelque chose.
C'est pas des lacets, t'as déjà dit, c'est ça ?
Non, c'est pas le lacet.
L'inventeur des lacets. C'est un inventeur des lacets.
Ça peut remplacer.
Ça peut remplacer des lacets.
Le scratch.
Ah, j'ai trouvé.
Comment on appelle ça ?
Velcro.
Le velcro. La présente invention comprend un dispositif d'accrochage comprenant deux parties semblables destinées à être pressées l'une contre l'autre pour être amenées en position d'interpénétration. D'où tu comprends l'idée que seul, ça ne sert à rien.
Oui, je suis d'accord.
Un bout de velcro tout seul, ça ne sert à rien.
C'est sûr.
Toi, t'as pas à t'inquiéter. Donc, le brevet en lui-même date de 1951. En fait, le 13 mai 1958, c'est le dépôt, en fait, de la marque velcro, qui vient, en fait, du français, velours et accroché, en fait. Donc, on appelle aussi scratch. C'est pour ça que t'as quand même eu un peu bon, parce que
Oui, non, mais c'est parce que c'est Clément qui avait mis sur.
Voilà. Et vous connaissez-vous une des particularités du mot velcro?
Ah, attends, Il se dit dans toutes les langues de la même manière, non ?
Oui, enfin, c'est pas utilisé, mais tu parlais de scotch. Ça a un point commun avec le scotch.
Ah, c'est un nom déposé, enfin, c'est le nom d'une marque, mais l'objet est déposé,
voilà,
en fait.
C'est des noms déposés de marques qui sont devenus des noms communs, dans l'usage.
Ah ouais, genre Caddy, par exemple.
Ah, exactement, il y a Albribus, il y a Alger.
Kleenex.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le bikini.
Le bic.
Le bic, tout à fait. Le canadair. La cocotte minute. Oui. Il y a le frisbee. Le frisbee, c'est un nom déposé à l'origine. Il y a plein de gens qui parlent d'iPod, hein, ou d'iPhone, même pour des téléphones. Il y a le Kawaii.
Ouais.
Il y a la mobilette, le Nutella, le Polaroid. Tiens, le plexiglas, c'est un nom déposé. Normalement, c'est un thermoplastique transparent ou polymétacrylate de méthyle. Vous comprenez pourquoi on dit plexiglas?
Ouais, voilà, pour pas se faire chier, quoi.
Il y a la rustine. La rustine, c'est un nom déposé à l'origine. Le téflon. Ou même le TGV qu'on utilise, alors que normalement ça ne désigne que le train français ou le Tupperware. En anglais aussi, il faut savoir que pour les quand on fait une recherche sur internet, les anglais ont pris l'habitude d'utiliser le verbe to Google.
Ah oui, d'accord.
Qui peut être traduit par googler, verbe temps, voilà, le premier type. Voilà, to Google pour faire une recherche sur internet. Donc voilà, c'était pour le velcro. Putain, c'est pas dur à dire.
Le velcro,
Et savez-vous ce qui s'est passé en F1 un 13 mai?
Eh ben rien.
Ah mais pourtant il s'est pas passé rien, parce que le 13 mai 1950.
Ah ben c'est le premier Grand Prix.
Eh oui, premier Grand Prix, Grand Prix de Grande-Bretagne et d'Europe, et qui a été le premier vainqueur, Dino?
Farina.
Farina devant Fagioli et Parnell, un triplé Alfa Romeo. Pour la petite histoire, je crois qu'on l'avait évoqué d'ailleurs la semaine dernière sur les primes de Grand Prix. Il n'y avait pas Ferrari.
Ouais.
Ils ont commencé au deuxième.
Ils avaient préféré aller en Belgique.
Ah oui, c'était pas. Vous avez parlé déjà récemment, je crois.
Oui. Voilà. Bah justement dans l'émission, le dernier mag où on parlait des primes.
Ouais, histoire d'argent qu'ils avaient plus à gagner ailleurs.
Voilà.
Alors, à noter quand même que, bon, sur la vingtaine, hein, il y avait 21 voitures, il y avait quand même 4 Alfa, 5 Maserati, à peu près 4 ou 5 Talbot Lago et 4 ou 5 Hera, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait que 4 ou 5 marques de voitures. Mais donc, grande date quand même, pour la F1.
Ouais.
Ouf. Ouais, c'est pas les points de vue.
Avec des premières lignes à 4 voitures. Ça, c'était fait.
Ça devait être sympa au premier virage.
Ouais.
Bon, on a vu ce week-end avec Maldonado et Alonso que finalement, 4 en première ligne, ça pouvait le faire. Hein. Ah, tu peux trouver de la place.
Hein. Ouais, c'était pas évident quand même.
Oh, Kimi, il avait un boulevard. Oh. Ah oui, non mais clairement, bon, il en a pas profité, mais il avait un boulevard quand même.
Donc voilà, messieurs, c'était tout pour l'éphéméride.
C'était un bel éphéméride, Shinji.
C'est bien, tu le dis à chaque fois.
Oui, mais c'est parce qu'à chaque fois, c'est beau.
Je sais.
Bien. C'est pas trop faux cul, hein.
Bon, c'est pas du tout mon genre.
Dino, nous allons passer à l'heure de gloire de l'invité.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Et oui, Clément, ceci est ton heure de gloire. C'est l'heure où Shinji va enfin fermer sa gueule. C'est vrai, Shinji. T'arrêtes pas de faire des monologues et tout. Et à un moment donné, il est temps que l'invité parle. Voilà. Et donc, tu sais sans doute que cette heure de gloire commence par ce chef-d'œuvre, cette idée géniale, qui est le pour, pas pour.
Ah oui, ouais.
À savoir que je vais te poser 10 questions. À chaque fois, tu me dis si t'es pour, pas pour. Et à la fin, tu auras le droit de revenir sur 3 des sujets qui ont été abordés. Le but du jeu, vraiment, c'est que tu répondes sans réfléchir. Tu fais comme Shinji.
Ouais. C'est vrai, je réfléchis jamais.
C'est pas, voilà. Attention, Clément, es-tu prêt?
Je suis prêt.
Alors, pour ou pas pour Jacques Villeneuve au volant de la voiture de Gilles?
Pour.
Pour ou pas pour l'alternance Manicourt-Castellet?
Pas pour.
Pour ou pas pour le changement de nom de HRT?
Pour.
Pour ou pas pour le duct de Mercedes?
Pour.
Pour ou pas pour le Hungaroring?
Pour.
Ouais! C'est juste, je gagne! Pour ou pas pour les murs sur les bords des circuits?
Pour.
Pour ou pas pour les petits chats sur internet?
Pas pour.
Oh, oh là 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 là! Tu viens de mec!
Oh, ça sert à rien, on peut dire, hein.
Mais c'est des chats!
Pour ou pas pour les Rookie Days à Silverstone?
Pas pour.
Pour ou pas pour un Grand Prix de Formule 1 au Mugello?
Pour.
Et enfin, pour ou pas pour prendre la place du changeur de pneus arrière gauche chez McLaren?
Oh, c'est peut-être intéressant pour.
Et voilà, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour 3 pas pour. Et sur quel sujet voudrais-tu revenir, voudrais-tu approfondir ton opinion plus que pour ou pas pour?
Pour commencer, l'alternance Castellet-Spa. Moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée de faire cette alternance parce que personnellement, je trouve que le circuit du Castellet, je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose, il est pas hyper passionnant. Même si c'est en France, j'ai du mal à avoir de lui trouver un intérêt pour les Formule 1. Je préférerais encore que la, je préfère que largement que Spa reste, qu'on continue, que les Français, on ait aucun Grand Prix, qu'on a déjà 3 Français qui sont revenus. Je trouve que c'est déjà pas mal, quoi.
Oui, surtout qu'on a déjà pris la place d'un Belge, alors c'est
bon. Ouais, bon ça. Mais je parle, c'est pas forcément un grand, ouais. Surtout si j'ai entendu dire qu'il y avait dans la grande ligne droite, ils hésitaient entre mettre une chicane au milieu et laisser la ligne droite entière. S'ils mettent la ligne droite, la grande ligne droite, c'est encore l'intérêt est encore moins est réduit parce que une ligne droite en pleine charge, tu peux pas faire grand chose quoi. À part le DRL, l'aileron mobile, il y a pas grand chose à faire quoi. Ça pas forcément exceptionnel.
Et puis surtout, c'est, si je me trompe pas, au bout de la longue ligne droite, c'est pas un virage lent, hein, c'est une grande courbe,
voilà.
Je crois.
Dans les deux cas, ouais.
Donc c'est pas forcément, ou alors faudrait tourner dans le sens inverse, mais voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant.
Ouais, y a pas beaucoup de virages lents. Moi, je suis plus pour les circuits lents et techniques. Donc les circuits pleines balles, bof.
Abu Dhabi.
Non. On reste quand même dans les circuits. Y a quand même un choix à faire, mais il y en a certains.
Le Hungaroring.
Par exemple, Singapour.
Ah, ben voilà.
Bah oui.
C'est lent et technique, tu vois.
Ouais, enfin, ouais, c'est un peu des deux. Autrement, ouais, je pourrais parler aussi du Mugello. Ben, c'est pas une mauvaise chose qui vienne en Formule 1. J'ai regardé le tracé, il est plutôt sympa, il y a des grandes courbes, ça peut être peut se passer un bon Grand Prix avec des bons dépassements dessus, ça peut être sympa. Par contre, après, je pense que s'il doit venir en F1, c'est pas à la place d'un Grand Prix type Monza, tu vois. Ce serait genre, même si c'est un peu vache pour les autres pays, que ce soit un deuxième Grand Prix en Italie, par exemple. Parce que Monza, je serais plutôt pour le garder aussi. Et autrement, je pourrais aussi parler du grand HRT, de son changement de nom, que ce serait pas une mauvaise chose, mais après, s'il change de nom, ce serait bien aussi qu'il change les voitures pour qu'elles aillent plus vite. Parce que, s'il change de nom, moi je pense que ce serait plutôt pour même si ce serait la même équipe derrière, la même base pour que le nom HRT maintenant, il a toujours l'idée que le public a l'idée que c'est une écurie pas terrible qui avance pas vite. Si tu changes de nom, c'est pour faire oublier au public ce truc-là et justement que ce soit plus une meilleure équipe et qui revienne équivalent à Caterham par exemple dans les hautes voitures des écuries récentes qui pourraient même aller titiller les écuries du milieu de peloton, à la Toro Rosso ou Sauber, par exemple.
Un nouveau départ avec un nouveau nom.
Par exemple, ouais. Voilà.
Mais toujours avec Kartik Eyan.
Ah non.
Mais il est bon pour la météo.
Excuse-moi, mais c'est lui qui a
génial,
pas fait...
C'est Tamotor, son sponsor.
C'est lui qui a pas fait les 107%, je crois, au qualif.
Cette semaine, ouais.
Ouais, faut être fort quand même, hein, parce que quand t'as les deux, tu fais, ouais, c'est la voiture qui est pas puissante, qui est pas aboutie, elle est pas évoluée. Mais là, quand c'est que lui, tu te dis, il y a le pilote qui est pas bon derrière, c'est pas possible autrement.
Mais non, hein. Mais parce que les 107%, c'est il a fait deux tours rapides, enfin, non, il a fait un tour rapide. Le premier, il a fait un tête-à-queue. Il y en a eu deux, je crois, qui ont fait des tête-à-queue pendant les qualifs. Il a fait un plat, donc derrière, il a refait un tour, mais bon, ça marchait plus. Et après, quand il a voulu faire son deuxième tour, et c'est là où j'ai franchement des doutes, soi-disant que HRT, ils auraient trouvé une mauvaise fixation de la caméra embarquée. Voilà, ça sent grosso modo l'excuse. Bon, de toute façon, on sait très bien que là, il va pas rentrer. Donc, autant tout de suite se trouver une excuse technique qui fera que le cas de force majeure fait que on pourra participer à la course.
En plus, au Libre 3, il était dedans, donc
voilà.
Savait qu'il y avait une possibilité, quoi.
C'est quand même pas terrible, quoi. Ah, je pourrais aussi, j'aurais un petit coup de gueule à passer sur les HRT ce week-end, là, avec leur gros numéro qui est apparu sur les...
Ah oui, sur les flancs, ouais.
Moi, je trouve ça affreux. Faut dire ce qu'il y a quand même, c'est pas beau, quoi. Tu sens que c'est l'écurie, qui a pas de sponsor, qui cherche à habiller sa voiture pour pas qu'elle fasse toute blanche.
Mais oui, c'est, vrai que c'est vrai qu'il y a plus de couleurs qu'au début. On sent qu'il y avait beaucoup de blanc au début et ils ont rajouté des couleurs.
Ouais, puis ouais, enfin, en plus, la voiture blanche, ça fait neutre, mais
ah, oui.
Faut trouver une couleur pour l'habiller, même si t'as pas de sponsor. Genre l'année dernière, c'était pas très beau, mais c'était mieux que cette année, quoi. Là, le mec qui a dessiné la voiture, il s'est pas cassé la tête, hein.
Donc ensuite, des petites questions sur l'actu. Quelle est l'actu dont tu n'as rien eu à foutre dernièrement?
Je sais pas, il y en a eu plusieurs.
Vas-y, lâche-toi.
Bah par exemple, ouais, même le HRT qui ouais, je me souviens pas trop, HRT qui veut changer de nom. Je trouve ça pas trop, on s'en fout, quoi, c'est ok.
Oui,
ça
rapporte rien. Près, quand même de le choisir.
Ouais. Oui, mais c'est, j'ai quand même pas flatté l'écurie HRT à dire qu'ils allaient changer de nom. Aussi, ouais, la fausse rumeur Weber chez Ferrari, quoi. La rumeur qui revient toujours parce que c'est le week-end où c'est Fernando et tout ça et que Massa est pas bien chez Ferrari. Ou même la rumeur dont on s'en fout parce que je pense qu'elle arrivera jamais, c'est le troisième pilote Williams qui va arriver qui va peut-être remplacer Senna. Comme ça
là, ça c'est pas beaucoup de l'ordre de la rumeur ça. Bah je pense que d'ici la fin de saison notre ami Bruno va dégager au profit de Valtteri Bottas.
Tu penses?
Bah disons que
Bottas commence à ramener des sponsors. En
bah
plus.
Il ramène des sponsors. En plus c'est clairement un pilote qui a été engagé, qui a un engagement sur l'avenir pour Williams. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait 15 séances d'essai libre cette saison. Et puis bah en ce moment par rapport à ce que fait Williams, comment s'appelle Bruno, si vraiment il apporte rien de plus que de l'argent, Bruno, je pourrais comprendre que chez Williams on soit tenté de se dire après tout Bottas, autant le faire rentrer cette saison, ça évitera de rentrer en 2013, puisque de toute façon il est destiné à devenir titulaire en 2013. Donc.
Ouais, je sais pas. Moi je suis plus sceptique que toi sur cette rumeur-là.
Mais c'est parce que c'est le truc, c'est que Bottas, on le prend un peu comme les autres pilotes de réserve, sauf que lui, c'est un vrai pilote de réserve qui est vraiment là sur chaque Grand Prix. Il va faire 15 séances d'essais libres. Voilà, c'est vraiment... dès le départ, ils l'ont dit, nous, c'est un pari sur l'avenir, parce qu'ils ont un peu compris que pour le moment, ils pouvaient pas attirer facilement des gros pilotes. Quoique, ça a peut-être changé.
Ouais, voilà. S'ils font plusieurs fois le podium, je pense que ça peut changer, ouais. Même au niveau des sponsors, peut-être.
Bon, ça, c'est
pour déjà, plus d'argent, pour une meilleure voiture.
Ça va être l'intérêt de la victoire de Maldonado.
Ouais, oui, c'est vrai.
Et sinon, quelle est l'actu que tu aimerais lire dans les prochaines semaines?
Je sais pas, Massa qui dégage de Ferrari.
Ah, oh, c'est méchant.
C'est méchant, mais franchement, faut le dire, quoi. Même si la Ferrari s'est améliorée, il est combien de tièmes au classement? Je me souviens plus exactement, mais il est vraiment pas, il est 12e ou 13e, je crois.
Au niveau de Schumacher.
Il est loin, il est loin.
Non, mais quand tu le compares à son, faut comparer ce qui est comparé, tu compares avec celui qui a la même voiture qu'il y a Alonso qui fait 2e, tu te dis quand même qu'il y a un problème. Et là, pour le coup, je trouverais que ce serait bien, par exemple, ouais, si Massa vient chez Ferrari, pour moi, ça sous-entendrait, ce que j'aimerais aussi lire, ce serait que Bianchi arrive en tant dans le cercle de la F1 et ça ferait un 4e français en F1, par exemple.
Ouais. Je suis moins convaincu, là, pour le coup.
Ouais, on sait jamais, mais... Ou Bianchi, ouais, Bianchi qui arrive en F1, par exemple. Ça, ce serait une actu qui pourrait être intéressante pour lui, je trouve.
Et au contraire, quelle est l'actu que tu n'aimerais pas lire dans les prochaines semaines?
Je sais pas trop... Il y en a pas beaucoup.
Mais t'as le droit à une actu folle, hein. ça peut très bien être quelque chose de pas réaliste, hein.
L'actu que j'aimerais pas lire, ouais, je sais pas, c'est Red Bull qui s'écroule complètement, qui tombe en fin de peloton jusqu'à la fin de la saison. Même si je suis pas pour Red Bull, c'est un grand acteur de la F1 et je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose pour eux de descendre parce qu'ils animent les courses quand même.
Et donc enfin, pour terminer ton heure de gloire, quel serait ton drive-thru, ton coup de gueule, autre que HRT?
Je pourrais dire sur la télé ou même Schumacher qui râle contre Senna lors de son crash.
Ah
oui.
Il a traité d'idiot, ouais, d'ailleurs, je crois.
Oui, mais de mon avis, je pense qu'il y en a gros sur la patate et qu'il ne s'est pas retenu cette fois-ci parce que pour moi, c'est pas Senna qui est en tort, c'est Schumacher qui est en tort.
Est-ce qu'on va y revenir, ça, Shinji? Je sais pas.
Pas spécialement, on peut en parler.
Non,
maintenant.
Bah on peut en parler maintenant. Soyons fous. C'est-à-dire, tu penses que Schumacher est en tort?
Enfin, je dis dans le sens où quand on regarde les images, on voit que comment ça s'appelle, Senna, il est devant Schumacher, il protège sa position et ensuite il se rabat. Mais c'est Schumacher, il anticipe pas le frein, le c'est Senna qui freine quoi, il pense qu'il a, il freine plus tard et donc c'est lui qui le percute. Donc pour moi Senna il voit pas grand chose, donc il peut rien en de son erreur.
Je pense que c'est là où effectivement il y a le comportement de Bruno Senna qui l'ouvoit un peu devant, enfin il part un peu sur la droite, puis il revient sur la gauche.
Quand il revient sur la gauche, c'est quand même super léger.
Oui, voilà, non mais voilà, c'est il l'ouvoit légèrement, on peut comprendre que dans l'instant Schumacher se soit dit il change de ligne et que voilà.
Il arrive quand même super vite.
Mais le truc c'est voilà, ouais. c'est que l'impact, il a lieu aux 50 mètres. Sauf ouais. que là, tu freines pas aux 50 mètres, tu freines plutôt aux 80 mètres. Donc voilà, c'est juste que t'as freiné au panneau de trop tard. Voilà. Et que le panneau de trop tard, il s'appelle Bruno Senna. Voilà, alors après,
à mon avis, il était trop préoccupé par pour doubler Senna dans la ligne droite et vouloir seulement finir dans le virage, et il a pas fait trop attention au panneau.
Puis je pense que aussi il y a le fait, c'est d'ailleurs Senna qui lui a trouvé cette excuse-là en disant voilà, avec leur DRS,
sur
vitesse tout simplement, il arrive beaucoup trop vite. Maintenant, et en plus il revient avec, enfin je crois qu'il lui sort des stands, Senna il est pas encore passé, donc il y a une différence de pneus et compagnie. C'est aussi des paramètres que Schumacher doit gérer. Moi, c'est surtout l'aspect limite qu'il aurait dû se pousser, Senna. Enfin, non, il est là, il est au freinage. C'est à toi de t'assurer que le dépassement il se fasse correctement.
Quand tu vois après en train de descendre de la voiture, tu sens qu'il a les boules quand même.
Ah bah il a dit idiot à la radio apparemment.
Oui. Oui, ils ont pas traduit à TF1.
C'est la télé, ils ont pas voulu traduire.
Ça se comprend. À propos de ce Grand Prix, on a eu aussi un petit retour des duels entre Massa et Hamilton. Moi, je pensais que ça allait faire des étincelles.
Bah non.
Enfin, pas des étincelles dans le bon sens, je veux dire.
Oui, voilà. Ah, c'est peut-être pour ça, en fait, c'est Williams.
Ah, d'accord.
Et bien, Massa et Hamilton qui se finissaient. De...
Sinon, de notre côté, Dino, un drive fou.
Je verrai en fonction du tien, en fait. Si j'en ai deux, et c'est peut-être que ça se trouve, tu vas en faire un. Donc.
Moi, j'en ai un. J'ai même pas envie de m'étaler dessus parce que c'est tellement. C'est l'équipe McLaren. J'ai même pas envie d'évoquer parce qu'on va en reparler. Le problème, c'est que on va en reparler là, mais on en a parlé lors de la précédente émission, puis on en a encore parlé l'émission d'avant. Et aussi, c'est vraiment Lewis, quoi. C'est-à-dire que s'ils veulent pas le garder pour l'an prochain, qu'ils le disent, hein, mais qu'ils fassent pas ça, quoi.
C'est en train de contaminer un petit peu les autres équipes. Williams, ils ont fait un petit problème aussi avec Maldonado.
Oui.
Mais encore chez Williams, c'est excusable parce que c'est, entre guillemets, c'est une équipe qui reste aujourd'hui quand même une petite équipe et qui a plus forcément les moyens de s'entraîner à fond comme avant et de concevoir des systèmes et compagnie. Là, quand même, chez McLaren, c'est...
Ils se sont retrouvés dans une situation qu'ils n'avaient pas connue depuis quand même un certain nombre de temps.
Voilà. Alors chez McLaren, c'est quand même...
C'est même plus une erreur par course, c'est deux maintenant, par week-end.
Mais là, c'est quoi exactement, en fait, l'erreur? Parce que il rebondit, il monte sur quoi, Hamilton? Sur le pneu?
Oui, je pensais que le gars l'a pas rangé, quoi, enfin.
En fait, je pense qu'ils ont décidé, parce que le changeur de pneu, ils en ont eu un peu marre, ils ont dit, bon, toi, la prochaine fois, c'est toi qui prends la roue, c'est pas...
C'est possible.
Et le mec, en fait, il garde la roue, et au lieu de la reculer de 10 cm, il la laisse au même endroit, il la touche pas, et du coup, Hamilton, quand il part, et ben, en partant, sa roue tape la roue et monte
dessus. Et ça rebondit. Voilà.
Mais ça fait une super belle image au ralenti, parce que t'as une McLaren.
C'est très impressionnant.
Le saut. Pour une fois que c'est pas la faute de Lewis, en plus, quand une McLaren vole. Faut le dire.
Non, puis même depuis le début de saison, c'est rarement de la faute de Lewis. Il a quand même vachement été pénalisé depuis le début de saison par son équipe.
Mais c'est l'inverse complet de l'an dernier, je trouve. C'est-à-dire que l'an dernier, on avait une écurie McLaren qui était vraiment à fond dans le développement et compagnie pour récupérer le retard. Et Lewis qui faisait n'importe quoi. Et cette année, tout le monde fait n'importe quoi, sauf Lewis. Qui lui est parfait depuis le début de saison, quoi.
Oh, ouais, vraiment. Voilà, et toi, donc, tu...
Attends, j'hésite. C'est un peu lié, donc voilà, c'est à TF1, enfin, sur le commentateur de TF1. Ils m'ont suivi au bout de 20 minutes, quoi.
C'est
alors, déjà, c'est Malbranche. Ah, il faut que je me lâche. Ah. C'est Malbranche qui dit quand même beaucoup de conneries. Et je crois que, au début, je voulais en mettre un à Pirelli à cause de leur choix de pneus. Et ah, je crois que le moment où...
C'est que t'es corrompu par Pirelli.
Oui, non mais je crois que c'est le moment où il y a eu quelques petites conneries, je me rappelle même plus, citées par Malbranck au début. Je me suis dit, c'est pas grave, Dino, prends sur toi, t'en prends pas. C'est... Surtout que c'était lié à Hamilton. Je fais, pense à Fab qui te dit que tu te fais des films. Ça se trouve que tu te fais des films, ne dis rien. Et là, au bout de 10 tours, il nous dit, quoi qu'il arrive, le vainqueur moral de la course, c'est Lewis Hamilton. Et là, oui.
Ah non, non.
Normalement, ta gueule. Parce que le coup du vainqueur moral, moi, ça me saoule. Et en plus, derrière, il en faisait... il y avait encore le débat sur le fait que, oui, c'est pas normal que le pilote soit sanctionné, et puis ensuite, que... C'est limite, t'as l'impression que Hamilton était victime d'une injustice. Voilà, il y a une erreur qui a été faite par McLaren. Maintenant, il y a eu une sanction. Ils font avec la sanction. Mais quand même, à l'origine, il faut pas oublier qu'il y a une erreur de McLaren qui profite au pilote et que c'est normal que le pilote il trinque dans l'eau, quoi. Donc voilà, je trouve que... Mais encore une fois, j'ai envie de dire, ça tombe sur Hamilton. C'est-à-dire que, c'est Malbranck qui parle d'Hamilton, encore une fois. Voilà. Oui. Alors, je sais, Fab, je me fais des films, mais reconnais quand même que quand Lewis parle d'Hamilton, il a un petit peu tendance à faire de la lèche.
Alors que quand Lewis parle d'Hamilton, il fasse de la lèche...
Non, enfin, quand Malbranck parle d'Hamilton.
Oui,
non, vous avez compris. Mais vous avez compris, vous êtes
on
une
bonne. On peut mal le comprendre, on hein peut comprendre des choses bizarres.
C'est juste parce que je suis énervé, c'est pour ça.
Je suis ému.
Oui, je suis très ému.
Mais si on va passer à la course, et au week-end, qui a été long, où il s'est passé plein de choses. Et on va commencer par les qualifs. Alors on va se baser sur les temps, hein, avant de parler des disqualifications et notamment des sanctions, parce que ça va aussi être un débat intéressant. Cette semaine, la place du con, eh bien, oui, paradoxalement, c'est une Williams, c'est celle de Bruno Senna, qui pourtant a failli se défoncer. Il s'est défoncé, hein. S'il avait pas fait cette petite erreur, peut-être qu'il aurait pu passer en Q2.
Oui, ça se trouve, il aurait été en pôle.
J'ai pas dit ça. J'ai dit la Q2.
Non mais sincèrement, en qualification, quand tu vois les écarts qui sont faits, enfin c'est Alonso qui le dit quoi. On se retrouve dans une qualification où il manque en Q3 il manque une McLaren, il manque une Red Bull et en plus la deuxième Red Bull n'a plus de pneus neufs tendres. Voilà. Donc tu te dis quand même il y a un problème. Elle est bizarre cette qualif.
Ouais.
Et c'est vrai que ça a été une qualif bizarre. Je pense sincèrement que autant je défends Pirelli sur les choix de course parce que je trouve que les courses sont intéressantes, même si là je trouve que les mélanges de pneus ont plutôt tué les stratégies qu'autre chose puisque tout le monde s'est jeté sur les pneus durs. Et encore, on a quand même réussi à avoir malgré tout quelques petits défis stratégiques qui étaient intéressants, mais voilà, c'était moins intéressant que les précédentes courses. Mais en qualification, c'est une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que dans la gestion des pneus, on le voit depuis le début de l'année, les qualifications, ça n'est pas normal, même si on peut reprocher tout ce qu'on veut à Massa, ça n'est pas normal d'avoir Massa qui soit 17e et Alonso
oui.
qui soit 3e. Il y a juste quelque chose qui n'est pas normal, quoi. On l'avait vu en plus avec Toro Rosso où il y avait Ricciardo qui était 6e il y a un ou deux grands prix et Verne qui était 18e. Voilà, c'est encore une fois, c'est pas normal qu'entre deux coéquipiers, alors je veux bien que les écarts soient réduits, mais quand même de là à ce que les mecs soient séparés de 6 ou 8 dixièmes et qu'il y ait 10 places entre les deux, c'est à un moment donné, je pense que c'est que les pneus aujourd'hui ne correspondent plus nécessairement au format de qualification où déjà la moindre erreur se paye cash, quoi. Donc là, la moindre erreur, si en plus tu loupes ta fenêtre d'exploitation des pneus, alors c'est la merde. Donc retour soit aux pneus de qualification, soit obliger tout le monde à prendre le même train de pneus, enfin je sais pas, ils se démerdent, mais il faut vraiment que les qualifications redeviennent ce qu'est l'exercice de qualification, un tour rapide. Et là, sincèrement, on le voit pas, quoi. À part Hamilton, c'est rigolo, c'est le seul qui joue à peu près le jeu, il est devant, alors que les autres, ils gèrent et compagnie, enfin...
Ouais, donc tu disais, hein, Massa 17e, accompagné par les Toro Rosso et les Force India, c'est habituel hein, pour la Q2. Weber, donc 12e, et Button 11, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, j'ai envie de dire.
Mais encore une fois, enfin quand tu vois Button, il est 11e, il est à la ramasse. Quand tu vois ce que fait Lewis, il y a quelque chose qui est pas compréhensible. Alors que Button, c'est ce que dit Button, il dit, vendredi après-midi, on est super content de l'équilibre et tout, on sort, on est super content, on fait quasiment pas de changement durant la nuit, on arrive samedi matin, la voiture, elle marche plus.
Et pourtant, une de leurs forces, c'est leur homogénéité, dans le sens où même s'ils ont deux styles de pilotage différents, ce qui souvent ils ont expliqué, c'est que en règle générale, ils ont les mêmes réglages. Alors qu'ils pilotent tous les deux différemment, mais en ayant les mêmes réglages, en règle générale, ça marche bien sur les deux. Ce qui fait que souvent, quand même, les McLaren sont relativement homogènes. Et oui, comme tu sais, bah, c'est là encore un exemple. Donc premier au niveau des temps, 11e.
Les réglages conviennent beaucoup mieux à Hamilton qu'à Button. Hein.
Ah oui.
Pour la qualif et la course. Hein.
Mmh. Ah là, oui, parce que même en course, on, c'était le jour et la nuit, hein. Carrément.
Bah, pire que ça. Hein.
Mmh. En Q3, alors on a quand même eu 3 pilotes sans temps.
Ouais, enfin... Voilà.
Avec Alonso qui est sorti, Alonso qui a quand même été, non c'est pas Alonso, attends, non c'est Vettel qui a été sincèrement très renard parce qu'il est sorti en premier.
Ouais. Voilà.
Alors tout le monde s'est dit mais pourquoi il sort ? Mais en fait non, il sort en premier, il fait pas de temps parce qu'il a compris qu'il y en avait plein qui allaient pas faire de temps. Et il s'est dit je vais gagner des places comme ça. Et finalement ça a marché parce qu'il s'est qualifié septième. Oui c'est ça septième et que en plus comment ça s'appelle ? Comme Hamilton a été déclassé, il est remonté à la sixième place. Donc,
du coup, non, il était huitième. Il est remonté à la 7ème.
Ah oui, voilà. Oui, voilà. J'ai oublié la Sauber de Kobayashi.
Mmh. Oui. Kobayashi, il fait 10.
C'est pas mal.
Bah, sans faire de temps. Shumi, c'est pas la première fois, je crois, qu'il nous fait ça de pas sortir. Et Vettel, ouais, ce jeu de renard. Et donc, parmi ceux qui ont fait des temps, bah, Rosberg, qui fait que 7, à croire que finalement, il a. Mitch, il serait pas sorti.
Voilà, pareil.
Voilà. Perez, qui fait 6. Romain Grosjean et Kimi Raikkonen qui font quand même 4 et 5. Pour l'instant, c'est celles qui paraissent les plus homogènes pour l'instant, ouais. Les Lotus.
C'est surtout une des écuries qui est le plus au top en ce moment. Parce que sinon, c'est un pilote qui est bon et l'autre qui est moins bon.
Oui.
Alors que là, c'est toujours les deux et qu'il y a un double podium en plus de Raikkonen à la fin. C'est quand même bien.
Ils citent plutôt bien leurs pneus. Alonso qui fait 3.
Alors là.
Moi, je dis chapeau.
Et donc. Encore plus fort qu'Alonso, parce que dire qu'Alonso qui fait 3, c'est top. Mais Maldonado qui réussit ce deuxième temps à la régulière, quand même, hein, parce qu'on peut dire que beaucoup de choses par rapport à la pole, mais il fait quand même le deuxième temps, au final. Même si, la marche est haute, il y a quand même, déjà à la base, je veux dire, avant qu'on ait connaissance du déclassement, c'était déjà une super performance.
Ouais, la première ligne d'une Williams, ça remonte au Brésil, il y a 2 ans.
Oui,
mais là encore, c'était dans des conditions particulières, alors que là, c'est vraiment, ça, c'est sur piste sèche, c'est pas sur piste humide, ou, voilà, au Brésil, on sait très bien qu'ils ont profité du timing, Williams. Mais la dernière poule, la dernière première ligne d'une Williams.
Il y a aussi eu des variations de température, hein, avec
les. Oui, ils l'ont dit, les pilotes en général.
Oui. Il ne pouvait pas plus, mais il y a eu des moments très nuageux.
Il y en a une, avec un nuage, mais je crois que c'est en fin de Q2 ou en début de Q3. Mais qu'en fait, les nuages se retirent et que la piste, elle reprend sa température.
Et donc, il y a ce meilleur temps de Hamilton, qui quand même à la régulière met 5 dixièmes ou 2e.
Oui.
Juste, voilà. On avait parlé de la fameuse pole de Rosberg, mais là, chapeau.
Ouais, voilà.
Hein. Mais, donc, il y a eu cette petite surprise. Bon, déjà, c'est vrai que...
On était déjà plus très surpris au moment de... au moment où, comment ça s'appelle, il s'arrête. Déjà,
oui,
on,
voilà.
Ça nous rappelle quelque chose.
Voilà. Mais bon, sur le coup, on se doutait pas que ça irait jusque là.
Ouais. Moi, ce que je pensais, ce que j'ai entendu dans d'autres émissions comme ça, c'est qu'il disait qu'il avait quand même, il avait de quoi rentrer jusqu'au stand. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi il l'a pas fait. Qu'il avait peut-être une chance, peut-être même petite, alors, mais de pas avoir contrôle par la FIA.
Et donc, le truc, c'est qu'il
problème.
Il faut qu'il revienne au stand et qu'en arrivant au stand, il ait 1 litre. Et si en effet, il avait 1,3 litre.
Il s'est fait manger un peu, mais il aurait
il faut 1 litre. S'il y a moins d'un litre, c'est foutu.
Et est-ce que tous les pilotes se font contrôler à la fin, ou c'est un tirage au sort?
Théoriquement, ils peuvent même être contrôlés à tout moment.
Alors, ouais, pas pour le carburant, mais pour la voiture, ils peuvent être contrôlés n'importe quand. Et de toute façon, vu la règle du parc fermé, à la fin, dans le parc fermé, il y a les contrôles de carburant qui sont. Et le problème, c'est que même s'il restait 1,3 litre à la fin, ils l'ont reconnu, McLaren, c'est une erreur de calcul, enfin une erreur de calcul ou une erreur de remplissage du réservoir.
Oui, parce que
qui fait qu'à un moment donné, ils ont reçu dans le dernier tour qualif que fait Lewis, ils reçoivent l'information comme quoi ils pourront pas arriver à la fin et donc du coup, bah ils sont obligés de donner la consigne à Hamilton de s'arrêter. En se disant, on pourra plaider le cas de force majeure, puisque en fait c'est une erreur de calcul. Sauf
et
que
non,
ça serait trop facile d'accepter en disant, oui, une erreur de calcul suffit. Dans ce cas-là, n'importe qui va dire, ah ben non, mais écoutez, on est arrivé avec seulement 100 grammes d'essence. C'est une erreur de calcul. Hein.
Et donc, souvenez-vous, lors du dernier MAC du SAV, on a eu cette question, et Gus avait dit bah, que justement, il n'y avait pas de de pénalité précise marquée dans le règlement, donc c'était à la discrétion des commissaires, et que comme ça touchait au règlement technique, il l'avait dit, ça pouvait aller jusqu'à une disqualification.
C'est un peu, ouais, ça a été trop sévère.
C'est vrai. C'est vrai. Là est la vraie question, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions un peu partout. La pénalité, il doit l'avoir, parce qu'en effet, ouais, il y a une infraction au règlement. Voilà, il y en a une. Après, la vraie question, c'est la sévérité.
Je la trouve un peu dure, moi, en tout cas.
Parce que le consensus qu'il y a beaucoup chez les fans quand on lit les réactions, beaucoup auraient préféré que ça soit limité en fait à la Q3, c'est-à-dire qu'ils partent 10e ou 11e.
Je suis exactement du même avis que eux.
Dino, je crois que t'avais réagi.
Bah oui, parce que la faute, elle est constatée en Q3. C'est-à-dire qu'on a eu une comparaison, je crois que c'est Bilo qui a fait la comparaison sur FanF1, avec la faute de Schumacher à la Rascas, quand il se gare à la Rascas en 2006.
C'est pas pareil.
Il y a quand même une différence, c'est que là, on est face à potentiellement une erreur de calcul, une erreur d'estimation. On se doute bien que McLaren, ils le font pas exprès. Toutes les équipes cherchent la limite.
On peut se dire qu'ils le font pas exprès, c'est qu'ils en avaient pas besoin.
Ce que je regarde, c'est la grille des valeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, la comparaison avec le cas de Schumacher, d'accord. Mais dans ce cas-là, on met au même niveau une erreur de calcul et le cas de Schumacher où c'est vraiment un cas anti-sportif où le mec se gare pour fausser les résultats et compagnie. Enfin, je l'ai défendu à l'époque, mais maintenant j'ai retrouvé la clairvoyance. et où vraiment le mec se gare et où c'est anti-sportif. C'est-à-dire que un mec qui fait un comportement anti-sportif, c'est la comparaison que je faisais, c'est que par exemple, sur un Tour de France, ça reviendrait à exclure pour 2 ans, un mec qui s'est dopé volontairement ou un mec qui a été dopé à son insu. Il y a quand même un degré à respecter. Moi, je disais, voilà, retirer 10 places, ça semble un compromis juste. Ça remet Hamilton à une place où ça lui pourrit pas sa course. C'est une sanction qui est proportionnelle un peu à la faute. Surtout qu'on le sait, il manque quoi? Il manque 1 kilo de carburant. Le kilo de carburant, c'est 1/10, je crois. Donc, sincèrement...
Oui, mais même, voilà, c'est voilà, ça
rien à gagner dedans, quoi. Donc, vraiment, il n'y a aucun gain qui est retiré derrière. Il n'y a aucune manière de prouver que c'était dans l'intention de McLaren de tricher, puis il n'y a pas de raison, on sait très bien qu'il soit à la limite, là il reste un Ligue 3, le fait même qu'il s'arrête, quoi, c'est de dire voilà, on s'arrête parce que on veut être sûr qu'il reste un litre. Bon, sincèrement, moi je suis pas un grand fan de McLaren, mais pour le coup, j'ai pas envie de les assommer. Maintenant, je trouve que c'est une sanction chère, et surtout, encore une fois, le problème, c'est qu'on a strictement rien dans le règlement. C'est-à-dire qu'on a un article du règlement qui nous dit, il faut que le pilote arrive au stand en fin de Q3 avec 1 litre de carburant, mais on ne nous dit pas qu'est-ce qu'il risque s'il est prouvé que c'est pas un cas de force majeure s'il s'arrête en piste.
Sachant qu'en fin de course, c'est différent, en plus.
Oui, non mais c'est ça qui est vraiment frustrant, c'est qu'on est face à un règlement où, bien évidemment que derrière on débat et qu'on n'est pas d'accord sur la pénalité, puisque de toute façon, dans le règlement, on dit strictement rien sur la pénalité. Et ça va dépendre, donc, du coup, des circuits, ça peut dépendre de la tête du client. Et là, McLaren a joué aussi dans le fait qu'ils sont à l'origine de l'éclaircissement de la règle et des 1 litre.
Donc pour toi, si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait pas été la même sanction.
Je sais pas. Maintenant, je pense que si ça avait été une Red Bull ou un truc dans le genre, on aurait été plus clément et on aurait simplement peut-être parce que au départ, en plus, ce qui murmurait dans le paddock, c'est qu'on allait retirer le meilleur temps d'Hamilton, ce qui l'aurait fait partir en 6e place. Bon, après, on peut imaginer une disqualification en Q3, ce qui l'aurait fait partir 10e. Voilà. Donc après. Est-ce qu'on aurait fait pareil avec d'autres? On peut pas dire, parce que malheureusement, ça s'est pas produit avec d'autres. Et je pense que, de toute façon, maintenant, si ça se produit avec une autre équipe, ils donneront une disqualification complète, parce que on posera naturellement des questions. Mais ce qui aurait été intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui serait passé avec une équipe avant, si ça avait été Red Bull, ou Ferrari, ou Mercedes à la place, est-ce qu'on aurait eu la même sanction?
Puis ils l'ont dit, en plus, après qu'ils regrettaient... C'est pas leur faute et qu'ils regrettaient d'avoir donné cet ordre-là à Hamilton. Oui.
Mais à la limite, je pense qu'ils auraient mieux fait de rentrer au stand et de se retrouver avec 3 litres en moins, 0,7 litres par exemple, et qu'ils disent, bah, écoutez, on s'est trompé dans les calculs, et qu'ils montrent, voilà, on s'est dans les calculs, qu'ils montrent les documents. Là, ils ont essayé de faire passer ça pour un cas de force majeure.
Ouais, pour une fan.
McLaren qui s'embarque dans un truc compliqué, on s'arrête en piste, et on va dire que c'est un cas de force majeure. Il serait arrivé, il y aurait eu une enquête, comme quoi ils arrivaient. Ça se trouve, ils seraient peut-être même passés entre les gouttes, quoi. Puisque de toute façon, le règlement il est clair, c'est qu'un pilote qui ne rejoint pas l'arrivée à la fin de Q3, qui ne rejoint pas son stand, automatiquement, l'écurie est convoquée devant les commissaires. il fallait peut-être se dire bon bah on va essayer de passer le on rentre au stand, on vérifie ce qu'il y a dans le réservoir et là on va de nous-mêmes voir la FIA leur disant écoutez on fait preuve de bonne foi, il y a moins de carburant que ce qu'on pensait dans la voiture, et puis à la limite tu négocies une petite peine, mais au moins t'as moindré la peine. Là, c'est le côté, on va essayer quand même de sauver les meubles, quoi. Ça va passer. Non, ça passe pas, quoi. Tu te doutes bien que la FIA, surtout que la FIA et McLaren sont pas forcément super potes. Voilà, tu te doutes bien que ça peut pas passer, quoi.
Donc Hamilton qui s'est retrouvé donc 24e derrière même Carty Kenyon qui pourtant n'avait pas fait ses 107%. Faut le dire quand même.
Je pense qu'ils ont dû halluciner au départ quand ils ont vu la McLaren à côté d'eux quand même. Hein. Ça doit faire drôle, hein.
Alors, il y a une phrase qui était très drôle, je crois que
bah, c'est ce qu'ils ont, ils ont demandé à Charles.
C'est pas Timo Glock, justement, qui a dit, oh bah, je me suis battu à un moment donné avec Lewis Hamilton. Non, 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 t'étais dans la ligne droite et Hamilton est passé à côté de toi. Il est jamais battu avec.
Oui, il s'est fait un petit kiff, il a voulu dire ça, puis voilà.
Voilà. Imagine Lewis à la fin de la course, il dit, oh, allez, vas-y, fais-toi plaisir, tu peux dire que c'est pas carré, allez.
Et donc, la pole, bah, elle est revenue au deuxième, et donc, à Pastor Maldonado, première pole, forcément, la 127e pour Williams, la 195e pour Renault, à une moyenne de 203,658 km/h.
Et savez-vous d'ailleurs combien de pays différents on compte une pole position en Formule 1 ?
Une pole ?
Je sais pas, une vingtaine par là ?
Une trentaine ?
Eh ben c'est Clément qui est proche. C'est 20, le Venezuela est le 20e pays à faire une pole.
Oula. En tout cas, c'est le premier Venezuelien.
Voilà.
Ils ont dû. Hey, ils sont prudents à la FOM. Hein. Vous avez vu, il y avait l'hymne du Venezuela et le drapeau du Venezuela.
Bah, je crois depuis le précédent Red Bull
en... ouais.
Ah, où ils se gourdent d'hymne. Je crois que maintenant ils se sont dit même ouais, s'il y a un mec du Liechtenstein, on trouve son hymne.
Oui, ils doivent bien avoir un hymne indien aussi, tu sais, on sait jamais.
Ah, mais certainement.
Si ça arrive à Charté ou n'importe qui.
À Monaco, on peut y croire. Oh, c'est énorme à Monaco. Tu... Un gros carton premier virage et t'as un grand prix tout seul avec juste Gérard Carty Kenyon, tu vois. 23 éliminés au premier virage et Carty Kenyon tout seul qui fait 72 tours. Allez hop.
Nous allons passer au top 10 de la course.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Alors Dino, qui ne fait pas partie de ce club très sélect des 10 meilleurs pilotes de la course.
Alors, ne font pas partie du top 10 et nous les saluons. Vitaly Petrov, Timo Glock, et devinez qui ? Il est petit ! Il est très bon en météo. Non, ce n'est pas Alain Gidopetré, c'est Neran Kartikeyan. Il n'y a que nous qui nous rappelons d'Alain Gidopetré. Tu te rappelles, Sylvie ?
C'est vrai.
En 21e position avec 4 points, nous avons l'Australien Daniel Ricciardo. En 20e position, il courait à domicile. Son petit nom, c'est Pedro. Et il a marqué 24 points auprès de vous. C'est Pedro de la Rosa.
Merci.
À noter quand même, signalons-le, que alors que de la Rosa a marqué 24 points, le vainqueur, dont nous cacherons l'identité, puisqu'il y a des surprises,
oui,
a marqué 2040 points.
Et on nous posait, on nous a posé la question, est-ce que c'est malheureusement le record qui était lors de la première course, souviens-toi ?
Oui.
Te souviens-tu de combien il était le record?
3800 et quelques, je crois.
Et là, malheureusement, il est 2040.
Mais il faut préciser quand même que depuis, le formulaire a été amélioré, donc du coup, normalement, vous pouvez plus voter plusieurs fois,
oui.
Vous pouvez plus mettre 10 fois le même pilote, et compagnie. Ça aide.
Voilà. Ça reste un très très beau score.
Voilà. Oui,
quand même, ouais.
19e, Heikki Kovalainen avec 32 points. 18e, le futur, peut-être, pilote Ferrari. Et Paul Di Resta avec 43 points. En 17e place, Bruno Senna, 47 points. Oui, je sais, j'ai regardé le cordier jugé flic quand j'étais enfant. En 16e position, Felipe Massa, 33 points. En 15e position, Sergio Perez, 75 points. En 14e place, le peut-être futur pilote Ferrari, éventuellement remplacé par Adrien Sutil. Ça fait peur. Nico Hülkenberg, 124 points. En 13e position, l'ancien Mister Eleven qui perd 2 places, c'est Michael Schumacher avec 148 points. Avec 10 points de plus, nous avons Mark Webber, le deuxième Australien, qui échoue à la 10e place. Et Cocorico, en 11e place, nous avons Charles Pic avec 167 points. Que je me suis fait d'ailleurs une fausse joie puisqu'il y a un pilote, quand j'ai fait le classement, il y a un pilote que généralement nous ne voyons pas, que je n'ai pas vu. Donc j'ai mis Charles Pic 10e. Je fais, oh, Charles Pic, il a 10 points, je suis tout content. Et ça en arrive à la fin, je fais, merde, j'ai oublié celui-là, il est où? Et en le cherchant, bah voilà.
Une première remarque, c'est qu'on a perdu les deux tiers de nos auditeurs à cause de ta remarque sur les cordiers, qui les gens n'ont pas compris. Moi j'ai compris oui, parce que je suis vieux.
Je fais partie. Hein. Voilà.
De toute façon c'est pas difficile. Vous mettez NT1 l'après-midi à n'importe heure. Vous verrez.
Il y en a qui bossent à cette heure-ci.
Et donc en effet Dino, tu as donné un point à Charles Pic.
Bah même si en fait théoriquement ça aurait pas dû être le dixième donc si j'ai bien compris.
Oui voilà non. Non c'est juste parce que j'ai sauté à un pilote qu'on voit rarement et que bizarrement je voulais pas le voir.
Sinon tu as aussi donné 2 points à Massa.
Oui, pourquoi? Parce que je trouve qu'il a été finalement mal payé de sa course. Il fait plutôt bonne course. Il a un week-end. Bon, alors faut pas que la malchance cache le manque de performance, mais il fait un week-end que pas sensationnel. Mais faut pas oublier, c'est quand même à côté. Il a Alonso. On a tendance à oublier que il a quand même Alonso à côté et que les mecs qui se sont mis au niveau d'Alonso, ils sont pas énormes. C'est Hamilton, quoi. Voilà donc. Naturellement, je pense que Massa, il est à 2-3 dixièmes d'Alonso, et là, je crois qu'en Q2, il était à 5 ou 6 dixièmes d'Alonso. C'est pas non plus un gouffre immense, surtout qu'il a été apparemment un peu gêné par des voitures dans son tour de Q2. En course, il a fait une bonne course, il a été dans la bagarre avec Weber, il a fait un bon départ dans la bagarre avec Weber et Hamilton. Voilà, c'était pas mal. Pénalité peut-être un peu injuste.
Ah, parce que c'est vrai que globalement les commissaires ont été très en forme ce week-end. Oui. Puisqu'ils ont mis un drive-thru donc à lui, à Vettel on en reparlera, à Pic qu'il a pas eu le temps de faire apparemment, oui, ah, oui. Parce qu'il a abandonné.
Oui, oui parce qu'il a gêné Fernando Alonso. Ah.
Et aussi donc 5 places de pénalité à Schumacher.
Oui ouais.
C'est culbute.
Ça c'est normal hein, parce que c'est le genre de pénalité qu'on donne quand un pilote provoque l'abandon d'un autre.
Oui. Voilà. Ah, c'était cohérent.
On se rappelle que je crois que Petrov en Corée avait écopé de 5 places de pénalité après avoir percuté par l'arrière un certain Michael Schumacher. Qui là avait des raisons d'être vénère.
Sinon,
ce qui est étonnant, c'est qu'il était vénère à ce moment-là et là il était encore vénère. Il était dans le rôle de Petrov.
Sinon, on a tous les trois donné des points à Hülkenberg. Tu as même donné 4 points à Hülkenberg, Dino. Et nous, on en a donné 2.
Ouais.
Oui, mais je crois qu'en fait, en dehors des 7 premiers, j'ai eu...
toi aussi, hein.
Bah, après, pas voilà, la même.
En regardant le classement, je fais, bah lui, non, je l'ai pas vu. Vous devinez de qui je parle.
Je sais pas si vous avez la même sensation, vous qui nous écoutez, mais c'est vrai qu'il y avait, ouais, il y avait 6-7 pilotes et les autres.
Oui. Et encore. Je pourrais réduire à 4-5, hein.
Oui, tout à fait.
Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a le top 7 en fait de la course où on a des trucs à dire. Et après le top 7, c'est un peu à la vague que je te pousse, quoi. Voilà.
On peut passer dans ce cas-là directement à la 10e place, même si
Non, j'ai dit, on va parler d'Hülkenberg pendant 5 minutes.
Ah non.
Non, on peut signaler quand même qu'il a fait une bonne course et qu'il rentre dans les points.
Oui.
Et je crois pas qu'il soit rentré encore dans les points depuis le début de la saison.
Il avait marqué 2 points précédemment, mais je sais plus où. Parce que je crois qu'il a.
Ouais, je pensais pas. À...
C'est rassurant, surtout par rapport à Di Resta, parce que Di Resta,
avec 2 points,
quand même, depuis le début de saison, il lui fait quand même beaucoup, pas mal d'ombre.
Oui. Oui.
Voilà. Alors que quand même, Hülkenberg, il a un beau prestige, hein, quand même, derrière lui. Et là, c'est vrai que, il redore un peu le blason face à Di Resta, et en plus, face à Maldonado, enfin, même si c'est pas comparable, mais voilà, quand même, au moins, il n'a pas été totalement invisible le jour où Maldonado a gagné.
Non.
Parce que rappelons quand même que Maldonado remplace, Hülkenberg.
Ah bah oui. Et donc sinon à la 10e place, vous lui avez donné 192 points. C'est Jean-Éric Vergne.
Ah tiens. Bon, 10e place, je trouve c'est il a fait une plutôt bonne course avec une bonne qualif avant.
Ouais.
Il rentre à Q2 par rapport à ce qu'il faut au début de saison, il est un peu meilleur quoi, il progresse. Il est fini devant son coéquipier. Moi, c'est pour ça que moi, par exemple, je l'ai mis dixième.
Moi aussi, je l'ai mis dixième.
Moi, sincèrement, ce que je comprends pas, c'est quand je vois dans le classement du SAV, je vois Vergne dixième, et Pic 11e. Et je me dis quand même, s'il y en a un qui, course après course, nous impressionne, c'est plutôt Charles Pic, ouais. Là où Vergne, bon d'accord, il est devant son coéquipier, mais
c'est pas terrible, ouais.
Il vient seulement d'être aujourd'hui devant son coéquipier, là où Charles Pic, ça fait deux courses, et où on sent vraiment que Charles Pic, il est en train de prendre ses ailes.
Déjà en qualif, ça a l'air pas mal. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'ils finissent les courses.
Oui.
Mais là, je crois que c'est une erreur mécanique. Pour
Kevin là, il a fait un tête-à-queue, je crois.
Je sais pas, j'ai après, on l'a pas vu, en fait.
Il y a eu un... Oui, on va le voir, mon
tête-à-queue, enfin, on l'a aperçu.
Oui. Et, voilà, dans le virage 3 ou 4, je crois. Il part en faute. Qui reprend d'ailleurs superbement, je crois. Bon, il a perdu des places, mais c'est pas grave.
C'est pas l'essentiel à son niveau.
Non, voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il batte, même battre Glock, enfin, je pense pas qu'on lui demande de battre Glock systématiquement.
Oui, mais il faut qu'il le fasse quand même.
Bah, ça serait bien qu'il le fasse en course, ouais. Mais là, de toute façon, il fait sensation en, ne serait-ce que par ses retours techniques, par tous les compliments que lui font l'équipe, voilà, je pense que c'est aussi ça qui plaide aujourd'hui en sa faveur.
Et dans, tiens, sur Dimanche F1, il y avait son frère, qui est en, ouais. Oui, Formule 3.5, et qui a le même coiffeur.
Oui.
Ah, c'est des clones, hein.
Ouais. Dans ce cas-là, passons directement à la 9e place. Il a marqué 296 points. C'est Jenson Button.
Ouais.
À toi, Clément, tu lui as donné 4 points, hein, y a que toi.
4 points? Ouais, j'ai mis, comme on a dit tout à l'heure, à partir de la 7e place, je sais pas trop qui mettre. Et ouais, Button, je trouve que quand j'ai comparé par rapport à la qualif, où il est 12e je crois, 11e, il fait mais 8e, je trouve que c'était plutôt pas trop mal, il est plutôt bien remonté, donc pour moi ça méritait la 8e place.
Week-end très difficile.
La
hein,
remontée.
Ouais, par rapport à Hamilton, c'est nul, mais bon, c'est quand même pas trop mal.
Week-end très difficile hein, pour Button. Dans ce cas, ben passons rapidement, parce qu'on va passer rapidement sur la 8e place. Il a marqué 367 points. C'est Nico Rosberg. Donc, vu que c'est Nico Rosberg, passons directement à la 7e place. Hein, parce que voilà.
Parmi vous, a donné des points à Rosberg.
Bah, écoute, oui. Par rapport au pilote, bah, moi aussi, bon, je l'ai mis 8e.
Mais hein. Par rapport à quoi?
Bah, écoute, il a surnagé. J'ai par rapport à son coéquipier.
C'est même pas une course à la Rosberg, parce que c'est Grosjean qui fait la course à la Rosberg. Là, sincèrement, voilà, mais Rosberg, voilà, je comprends pas. C'est-à-dire, à la limite, Button, tu vois, la remontée de Button, à côté, elle m'impressionne. Alors que Rosberg, sincèrement, j'en ai rien à
tout, en fait. Hein. Même pas du week-end, en fait.
Non, voilà. même en qualif. Allez, hop, 7e place.
Ah, là, je pense qu'on va passer plus de temps, c'est beaucoup plus intéressant.
Oui, c'est un cas beaucoup plus intéressant. Il a marqué 608 points. Alors, Clément, tu ne lui as pas donné de points, mais moi et Dino, on lui en a donné.
What the fuck?
Il fait partie de ceux qui... Bah oui, mais il a donné une place à Button.
Ah, oh, non, attends. Alors, comment tu peux donner une place à Button pour sa remontée et pas lui en donner à lui?
C'est qui, c'est Vettel?
Oui, celui qui change de nez, mais qui sait pas pourquoi.
Voilà.
Et donc, c'est payé un beau drive-thru. Alors, lui, c'est pourquoi déjà son drive-thru.
C'est la même raison que... comment ça s'appelle? Que Massa. C'est au premier virage, quand il y a eu le...
Oui, avec le drapeau jaune.
La tentative de saillie de la part de Michael Schumacher sur Bruno Senna. D'ailleurs, Bruno Senna a rendu très fier son tonton, je pense. Voilà, il peut y avoir quelqu'un dans le sac qui dit « Vas-y, prête,
pense !»
Et donc, après, il y a eu un drapeau jaune et on se revoit bien Vettel devant Button avec le DRS ouvert, donc je crois que c'est pour ça qu'il
fonctionnait. Les petites pièces.
À TF1, ils ont dit que c'est parce qu'il avait amélioré son intermédiaire, oui. À ce tour-ci, et que donc, quand tu améliorais avec un drapeau jaune dans l'intermédiaire, c'était sanctionné.
Et après ce qu'ils expliquaient dans Dimanche F1 et qui était très intéressant, c'est que ils disaient par moment, quand tu reviens et que tu as par exemple des pneus neufs, je crois qu'il est parti un peu. Tu peux avoir l'impression en fait de ralentir, sauf que tu ralentis pas, et de toute façon, comme tu reviens avec des pneus neufs et que t'es plus léger par rapport au tour d'avant, du coup tu vas naturellement plus vite que le tour d'avant, même si tu lèves le pied. Et là en plus, moi je pense qu'il y a aussi l'effet du DRS, c'est-à-dire que on parle du drapeau jaune, mais le drapeau jaune il est montré un peu avant le virage 1. Sauf que ouais. Le DRS il l'active au tout début de la ligne droite, et pour le désactiver, le DRS sur certaines voitures il faut freiner. Donc, on voit quand même mal Vettel en train de dire « Ah, faut que je désactive le DRS avec Button dans le cul. » Hein, il dit « Ah, mais madame, t'écoutes pas. »
On aurait fait un doublé, hein.
C'est peut-être ça qu'il voulait faire, Senna. Il dit « Oh, il va y avoir des débris, je vais te donner un petit coup de frein. » Mais voilà, moi je trouve que c'était un peu, c'est typiquement le genre de sanction qui mériterait quand même d'être analysé après la course, et puis d'être analysé avec les données télémétriques et compagnie, que vraiment les gens puissent se défendre. Là, ça fait un peu sanction automatique et résultat, on a deux pilotes qui comprennent à peu près pas pourquoi ils ont été punis.
Ah mais ils étaient en forme ce week-end. C'est peut-être Tom Christensen, je sais pas, mais.
Tu dis bien Christensen.
Oui.
Scream Time.
Ouais, c'est le frère de Chris Paul, justement, ça.
Il y a des lettres en trop.
Non, sinon, sur sa course, ça reste décevant, enfin.
On l'a quasiment pas vu non plus, hein.
Non.
Mais il fait vraiment une très belle fin de course où il dépose les pilotes les uns après les autres. Il était à deux doigts, quand même, de damer le pion aussi à Kobayashi. Voilà, je l'ai mis sixième. Voilà, j'ai trouvé que c'était une course plutôt intéressante sur la fin. Surtout quand tu prends en compte qu'il arrive donc en course, il arrive sixième, je crois, et quand tu prends en compte le fait qu'il a une pénalité dans l'os, plus un arrêt prolongé par le changement de museau, voilà, c'est quand même pas mal.
Rien d'autre ?
Non ! Ouais. Ah, Sébastien, c'est faible !
Ah oui, mais ça, on le sait, depuis longtemps.
Ah non, moi. Mais je le rappellerai à chaque fois, Sylvie. Parce que je suis fidèle en amour.
Oui. À la sixième place, une entrée dans le top, avec 694 points. Il marque ses premiers points de la saison hein, dans le SAV. C'est Kobayashi.
Il les a mérités.
Oui.
Ah, il m'a fait du bien. Ah
c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein.
Ouais. Oui. C'était souvent l'autre quand même ces dernières semaines.
Et là, je me demandais où il est passé, Kobayashi. C'est sincèrement. Et, puis en plus, et là, je me demande plus quand je vois le dépassement sur Button. Ah là,
oui.
Il est au volant.
Le dépassement. Il y va aux chausses pieds quand même. Hein.
Comme dirait Dimonte Zemolo, c'est pas son frère jumeau. Ah, c'est un dépassement qui. Ouais, c'est typiquement le genre de dépassement quand on a Alonso qui parle de respect la semaine dernière. C'est typiquement le dépassement où tu sens quand même qu'il y a du respect entre les deux pilotes. Voilà, il y a aussi l'intelligence de Button de pas insister. Et Kobayashi le tente parce qu'il sait que c'est Button et qu'il sait que Button va pas insister, on risque de foutre sa course en l'air. Voilà, ce c'est pas le genre de Button. Je pense sincèrement sur une autre voiture avec ce type de livrée. Je pense que Kobayashi il le tente un peu moins.
Non, c'est bien, il revient même au niveau du championnat, un peu au niveau de Perez. C'est intéressant pour l'émulation entre les deux, parce que comme on l'a dit, on l'avait pas trop vu quand même depuis le début de saison.
Mais en plus, ce qui est rigolo, c'est que je crois que sur les 5 premières places, t'as les 4 premiers qui sont aux mêmes places qu'au départ. Et le cinquième, c'est une Sauber qui en chasse une autre. C'est Kobayashi qui remplace Perez, voilà.
C'est ça.
T'as Kobayashi derrière, mais tu ne peux pas t'empêcher de te dire, Perez, il a fait une belle qualif, sa course, elle est foutue dès le premier tour. On aura quand même bien voir ce qu'il faisait jusqu'à la fin, Perez. Quoi.
Oui. Oui, il y a cette crevaison à l'arrière dès le départ.
Oui, oui, oui.
Peut-être que du coup, Romain, ce serait peut-être un petit peu moins fait chier pendant la course.
Oui.
Parce que quand même, là, il y a des sacrés écarts en plus pour lui.
Ouais.
Eh bien, puisque tu parles de Romain, on va parler de Romain, puisqu'il est cinquième, avec 1048 points.
Oui.
Alors, tous les trois, on l'a mis cinquième.
Il a un méga.
Un méga.
Bah, 1048, c'est pas un méga.
Bon.
Voilà, vous. T'es fatigué, ce soir.
Non, mais voilà, c'est 1048, c'est bien.
Oui.
Ah non, c'est 1024 et 2048. Ah non, moi, j'ai sans montage.
Voilà.
Ça pas,
non, voilà, c'est trop pourri, celle-là, non, désolé. Donc, Grosjean, comme tu disais, qui a fait son Rosberg, on l'a pas beaucoup vu, loin de Kimi, loin de tout, j'ai envie de dire.
Il avait quoi, 40 secondes, je crois, d'avance sur Rosberg, je crois, pendant quasiment tout le Grand Prix, et il finit avec 11 secondes d'avance de retard sur Raikkonen, donc ouais... Il a dû se sentir seul, quoi.
Bah, déjà, il y a ce...
Non, sur la fin, il tape fort, hein, parce que sur la fin, il fait meilleur tour, c'est meilleur tour. D'ailleurs, le premier Français à faire le meilleur tour depuis Alesi en 96 au Grand Prix de Monaco. Et à la fin, il finit très très fort. Avec une voiture qu'on a dit un peu endommagée. C'est ça qu'on voit en même temps.
Bah, déjà, c'est vrai qu'il y a le départ qui
rate, hein, il l'a dit lui-même.
Il le rate, voilà. C'est vrai que... En plus, ils avaient mis beaucoup l'accent sur le départ des Lotus à la télé. Donc... Tout de suite, tout le monde l'a vu. Bien que, enfin, raté, il arrive quand même à se maintenir sur sa quatrième place.
Oui, c'est vrai.
et des Lotus encore solides.
Ouais, bah oui, quand on voit les deux dans le top 5, tu te dis que
pour Magic Hour, c'est les plus homogènes quand même pour l'instant.
Bah ça fait deux courses qui finissent comme à la parade, enfin voilà, ils sont tous les deux l'un derrière l'autre.
Il leur manque sans doute peut-être un peu de performance par contre. Pour gagner, c'est une ou deux places qui sont toujours devant elles.
Je crois d'ailleurs qu'on peut légitimement aujourd'hui déclarer, après deux courses passées l'un derrière l'autre, que Romain Grosjean et Kimi Räikkönen sont officiellement membres du club 153.
Ah c'est non, quoi, non, ce non, truc non, non, non.
Nous demanderons à Bûcher et à Fab, mais je propose.
Non, parce que plus que là on parle de
véritablement les membres du club 153 et je propose que l'on nomme automatiquement aujourd'hui Grosjean et Räikkönen dans le club 153.
En plus là on parle de Grosjean derrière Kimi et ça j'aime pas. Moi je vous préviens les gars, s'il y a des allusions dans les commentaires de ça, il y a des gens qui vont se retrouver avec des pistolets dans la gueule.
Des pneus. Attention, c'est des pistolets de chez McLaren.
Oui, des pistolets de chez McLaren.
Ils marchent pas.
Oui, mais ils font mal quand même.
Enfin non, maintenant c'est des pistolets de chez Williams. dites Martin Whitmarsh là, bon les pistolets qu'on donne à William, c'est quel carton? Bah vous avez qu'à prendre le
gauche.
Oui, celui de gauche là, il me semble bien.
Toujours le
oui,
même.
Oui, je sais, il y a écrit Bahreïn, Espagne et Chine. Mais il est pas mal, vous allez voir. Et ça marche bien celui-là.
Messieurs, évoquons la quatrième place avec
Bip bip.
Bip, avec le vainqueur moral.
Ah non, arrête, c'est des... Regarde, il est tellement vainqueur moral qu'il a fini quatrième, ouais, ça.
Oui. Voilà. 1200.
Je vais lui mettre la tête dans le classement à Malbranche. Regarde, même les fans ont voté par milliers.
Donc 1204 points pour Lewis, qui fait une très belle remontée et qui peut avoir les nerfs parce que en effet s'il était parti en première place on peut
on le voyait plus.
Après je pense que ça aurait été une course différente. Après voilà, enfin moi je crois que je l'ai même dit sur Twitter, je suis content que la FIA finalement l'ait renvoyé en fond de peloton.
Pourquoi?
Parce que du coup on a pu voir Lewis dans ce qu'il sait faire de mieux quoi.
Ah oui, bah oui.
Lewis en tête, c'est pas intéressant, c'est
mais
Lewis...
en même temps, je pense qu'il aurait aimé plus se faire chier. Finir
ah mais
j'en
sais pas. Voilà.
Je pense qu'on aurait eu une course à la Vettel de 2011 s'il était parti premier.
Ouais. Non mais c'est son équipe. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec une équipe pareille?
Faut plus que...
Rappelons qu'on parle quand même de McLaren. Hein. Je vais quand même mettre les choses en l'ordre. Rappelons quand même que ce que vient de dire Suzy, c'est à propos d'une certaine écurie qui, je comprends, n'est pas encore très connue en Formule 1, qui n'a pas encore beaucoup de gages de qualité, mais c'est McLaren.
Excusez-moi, mais regardez ce qui se passe cette année.
Oui, mais voilà, je pense que c'est...
Non,
est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de vengeance de la part de ce mécano? Eh, non mais, et qui sait? Peut-être? Peut-être que les mecs lui disent, ah, tu te rappelles, l'an dernier, en Corée, t'as pas souri, etc., hein, t'es les appareils à et tout. Ah, exact!
Mais enfin, quand même, là, ça fait un bon bout de temps depuis le début de la saison, hein, on le voit souvent au top, et il a jamais gagné, donc, la vengeance, elle est passée, quoi, s'il y en a une, quoi. C'est bon, faut qu'il gagne maintenant, quoi.
Monaco?
Ouais. Oui, pourquoi pas.
Ah, hein. Oh, bah, sincèrement, s'il y en a un qui est favori à Monaco, c'est lui. Il a la bagnole pour être en pôle, il a le pilotage pour se débrouiller à Monaco.
C'est bien, ça fera 6 sur 6. Non, rien d'autre à rajouter sur Hamilton.
Ah, moi, c'est bon.
Je t'aime, Lewis, non, c'est
bon. Vire pas ta cutie comme ça, tu vas nous faire peur.
Non, mais c'est une blague, Cindy.
En troisième, eh bien, c'est Kimi avec 1572 points.
Il a fait une très grosse fin de course.
Très grosse fin de course.
Et autrement, on l'a pas vu plus que ça, je trouve.
J'ai failli éclater du fan de Kimi dimanche après-midi vers 16h. Sincèrement, j'aime bien essayer de sentir un peu les tendances. Voilà, quand on met le top 10, voilà, je vais regarder un peu le classement. La première heure, je suis un petit peu pour voir qui vote en premier compagnie. Et à un moment donné, on a quand même eu, je crois, c'est Maldonado 204 points, Kimi 200 points et Alonso 186. Quoi. Et là, j'ai fait... D'ailleurs, je l'ai dit sur le site, enfin dans l'administrateur, j'ai dit attention, c'est Kimi qui finit derrière devant Alonso, je vais éclater du fan de Kimi.
Et qui est sûr que ça va tomber, hein?
Ah bah ça t'en aurait pris plein la gueule.
Non, oui. Je l'ai mis troisième, tu vois en plus.
Mais c'est, enfin sincèrement, c'est sa place, il a rien montré.
Ah, il a pas vraiment été menacé par Grosjean, malgré ce qu'a dit les commentateurs. Bon, alors le départ, il est un peu coincé quand même, hein. Même si tu dis qu'ils peuvent aller à 4, non.
Ouais.
Hein? Non, ils pouvaient pas là avec
Alonso
et Pastor devant.
Ils sont passés le mot et les deux, c'est pas possible au départ. Hein.
Ah oui, non, mais là, c'était toute beauté quoi.
Ah oui. Moi, je crois que c'était pas fait exprès qu'il allait se cracher Maldonado. Hein. Je pensais qu'il allait faire l'herbe et que c'était parti pour lui. Hein.
En plus, si je me trompe pas, c'est exactement le même dépassement que Fernando a fait l'an dernier. Donc encore une fois, oui, sur oui, la droite, en passant sur l'herbe à peu près. Voilà, alors, c'est typiquement le genre de situation où t'as pas envie de mettre Alonso, quoi. Bah, tu dis, je vais pas le mettre sur le côté, je vais pas le passer, parce que lui, de toute façon, il va passer à fond, il s'en fout.
Après, il y a...
Après, quand c'est du sable, Alonso freine. Oui. Quand c'est de l'herbe, Alonso n'a pas peur.
Oh, non, il a pas... Donc oui, Kimi a toujours été, il y a toujours eu un certain écart, même si après avec le jeu, ah vous avez vu Kimi les premiers, oui mais attends c'est les arrêts, c'est les arrêts. Même si c'est vrai que à la fin il y avait pas, je vais pas dire que en tant que fan de Kimi j'étais absolument sûr que ça allait arriver, mais il y avait quand même ce secret espoir.
Tu rêvais beaucoup quand même.
C'est-à-dire que je pense que tu te poses la question, tant qu'il reste 20 secondes, tu te poses la question, est-ce que les deux de devant vont s'arrêter?
Oui.
Et à un moment donné où t'es à 17 secondes, tu dis bah ils peuvent pas s'arrêter.
Pas s'arrêter.
Ils s'arrêtent.
Mais
c'est la victoire pour
Kimi Raikkonen, ça peut s'effondrer. En même temps, ça peut aussi s'effondrer pour Kimi.
Oui.
Il y avait aussi le risque pour Kimi, hein, donc il y a eu juste peut-être ce moment-là où on y a cru. D'ailleurs, j'ai l'impression que quand il revient, les écarts ont tellement été courts que c'est même pas parce que Alonso et Maldonado ont ralenti, hein.
Non.
C'est parce que vraiment au niveau des pneus, fallait quand même faire super gaffe.
Bon, on le voit, la Ferrari dans le dernier tour, le train arrière, il a du mal, hein, il chasse beaucoup. Hein.
Mais Alonso, il a même demandé à son stand de vérifier s'il n'y avait pas un problème, parce qu'il a dit à un moment donné, ça, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une pièce de cassé, il y avait quelque chose de cassé sur le train arrière, parce que la voiture, elle changeait de comportement.
Ah non, c'est des pneus fermants.
Non, non, c'est des Pirelli derrière. Tu regarderas demain, tu verras, c'est l'espèce de gros rond noir que t'as à l'arrière.
C'est pas du chewing-gum, ça marche pareil, mais c'est pas du chewing-gum.
Mais du coup, il y a quasiment un côté aussi vers la fin des deux, quoi, un côté quasiment héroïque de finir avec des pneus. C'est ça aussi qui est la dramaturgie que crée Pirelli et que moi je trouve intéressante, quoi. C'est que t'as Raikkonen qui remonte et compagnie, et t'as ce suspense de se dire est-ce que les pneus de devant vont tenir. Puis Alonso qui se bat avec sa voiture sur la fin. Voilà, il y a tout pour faire une bonne pièce, pour faire quelque chose d'intéressant et de captivant. Et je pense que c'est pour ça aussi que à la télévision ils se sont concentrés sur cette bagarre là à distance sur la fin, parce que c'était là où il y avait peut-être le plus de drame, quoi.
Ah bah oui, t'imagines si ça s'était effondré. Waouh. Oh wow. Donc à la deuxième place, il a marqué 1800 points. C'est bien sûr Fernando Alonso.
Que dire ? Très grosse course. Autrement.
Alors, on est obligé de se poser la question. On dit que l'Espagne, c'est quand même très significatif pour les voitures, que rouler à Barcelone, quand tu roules bien à Barcelone, tu roules bien toute l'année.
Ouais.
À tel point qu'il paraît que Maldonado, il a sorti un truc, il se voit champion du monde maintenant.
Oui, oui, oui.
Oh là là.
Bon. Non, mais franchement, je pense que Maldonado, il avait un petit peu, il avait dû fumer quelque chose.
Voilà. Mais, allez, plus sérieusement, est-ce que Ferrari is back?
Je pense que peut-être pas is back partout, mais ils sont revenus un petit peu.
J'adore cette phrase. Peut-être pas is back partout, mais...
C'est nous les Normands, hein. Attention.
Il va avoir des difficultés, je pense, mais que ils se sont un petit peu rattrapés par rapport à leur début de saison chaotique.
On a quand même l'impression que ça va pas devenir la voiture de l'année, hein, mais que en effet ils vont être là, enfin ils vont être beaucoup plus là qu'on ne le pensait quand même au début de saison.
Mais d'ailleurs c'est ce que dit Ferrari depuis le début, ils disent on n'a pas forcément besoin d'avoir la meilleure voiture, il en faut. C'est ce que dit Alonso, il disait ça après le Grand Prix de Bahreïn, il dit chez Ferrari ce qu'il faut c'est une bonne voiture. Après avec une bonne voiture, vu le championnat tel qu'il se dessine actuellement où c'est très indécis, et puis vu ce que peut faire Alonso avec la voiture. Et que malheureusement pour lui, il est habitué un peu à conduire des voitures très difficiles ces dernières années. Il pourra faire la différence et se mêler à la lutte. Et d'ailleurs, quand Domenicali dit à Massa, on va avoir besoin de ces points pour le championnat constructeur, c'est parce que sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, ils y croient parce que mine de rien, ça fait 5 courses qu'on dit que on va enfin voir la hiérarchie. On se disait, on va en Espagne, on va enfin voir la hiérarchie. On a
et
que
non.
Dalle.
Tant mieux.
Ah oui, non, on va pas se plaindre.
La régularité. côté va énormément jouer, hein. Ça, y a pas de souci, hein.
Mais ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, je trouve que sur les images qu'on a pu voir lors des différents essais, alors c'est peut-être dû aussi au fait que c'est ça aussi qu'il faut tenir compte, c'est qu'on sait très bien que la Ferrari est une voiture qui est très difficile à régler, voilà, que c'est l'un des points aussi, ils ont du mal, et que là, ils arrivent quand même dans un endroit où ils ont pas forcément trop à chercher les réglages, puisque normalement, ils les connaissent bien. Donc, faudra voir sur des circuits comme Monaco, Canada, et puis sur d'autres juges de paix comme Silverstone, voir vraiment comment se comporte la voiture à ce moment-là, alors qu'il faudra quand même réadapter les réglages de l'année dernière et compagnie. Là, on verra vraiment. Mais moi, ce que je trouve positif, c'est que la voiture était quand même beaucoup plus agréable à regarder. Voilà, c'est peut-être parce qu'il compense énormément, mais on avait quand même vu beaucoup d'erreurs, beaucoup de glissades et compagnie à Bahreïn et même avant. Et là, ça a un peu disparu et c'est relativement rassurant.
Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu gagner la course?
Oui.
Oui.
Je pense tout simplement qu'ils sont tombés sur un Maldonado et Williams qui ont superbement manœuvré. Je pense qu'il aurait pu gagner, mais je pense que vers la fin, il fallait vraiment
exploser les deux.
Et que il a compris que finalement, la victoire n'était pas forcément aussi importante que ça.
C'est une victoire en lui-même parce que la Malaisie, il l'a gagné plutôt par chance, alors que là, il l'a gagné vraiment sur un Grand Prix normal, on pourrait dire.
Donc voilà, là, il a préféré prendre 18 points, ça se comprend, ça montre aussi sa détermination, et je pense que, sincèrement, aujourd'hui, je me prends à espérer une nouvelle victoire de Fernando Alonso d'ici la fin de saison.
Aujourd'hui, en tout cas, ça paraît beaucoup plus réaliste.
Oui.
Au classement des pilotes, nous avons Raikkonen.
Oh.
Non, mais il a 69 points, mais il n'a que 4 points d'avance sur Alonso.
Ah.
Et Hamilton est 4e avec 55 points, devant Vettel, 51.
Ouais.
Puis Button, il est à 49. Puis je vais pas aller plus loin parce que ils sont bizarres les classements.
Ouais, ouais.
Ils sont bizarres. Chez les équipes, on a une égalité puisque McLaren et Lotus sont à égalité avec 104 points.
Oui. Ça peut pas être avec Ferrari, hein, ça c'est certain.
Devant Red Bull 89, Ferrari 66.
Et rappelons que vous trouverez les classements complets sur fanf1.com.
Oui. Dans l'autre classement, qui est tout aussi bizarre. Nous avons Vettel et Alonso en tête, mais Vettel il est devant parce qu'il a fait une quatrième ou une cinquième place, je sais plus.
Enfin,
ils ont tous les deux 61 points, c'est parfaitement logique, hein. Devant Hamilton 53 points, Raikkonen 49, Weber 48. Chez les constructeurs, Red Bull a 109 points, devant McLaren 98 et Lotus 84. C'est parfaitement logique. Messieurs, nous allons passer au fait marquant.
Oui, ah oui. Le fait que j'ai perdu, je suis troisième. Ou que j'ai gagné. Je veux pas être deuxième, je veux être troisième ou premier.
Hein, tu joues encore la stratégie.
Bah, premier, c'est le premier choix, c'est du coup pas la stratégie.
Donc, quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix du Bahreïn? Vous avez été 101 à voter, merci, comme d'habitude. Pour 12 votes, 11,88%, un Grand Prix sous haute tension. Et ça, je crois pas que c'est moi.
C'est moi, ça, je crois.
C'est toi? Ouais. Et donc, c'est vrai que ça a été très serré, puisque est arrivé deuxième, 44 votes, le premier podium de Grosjean, 43,56%.
C'est pas moi, ça.
Ça, c'est moi, parce que je me rappelle, je me rappelle que c'est pas moi qui ai pris le truc sur Kimi.
Ah oui, ah, donc, c'est pas moi, donc.
Voilà.
Ah, c'est le premier choix, oui.
Et donc, 45 votes, pour un petit vote, la confirmation du retour de Raikkonen, 44,55%. La preuve que c'est pas moi, parce que moi, j'aurais mis la confirmation du retour de Kimi.
Oui, c'est vrai.
Hein?
C'est familier.
Oh, bah oui. D'ailleurs, je dois tuer Ben.
Il est déjà mort.
Oui, je sais, mais je dois le tuer quand même.
Pourquoi?
Parce que t'as pas vu, il a mis une photo Twitter.
Ah oui, regardez,
la photo qui m'a énervé. Oui, c'est moi, Williams, en fait. Je pensais que Ben était dans le stand. C'est pour ça. Donc c'est à toi.
Oh, qu'est-ce que je vais choisir? Ah, j'hésite. Le retour en grâce de Williams. Je vais pas trop inciter sur Maldonado, je vais plutôt inciter sur Williams. Mais bon, ça comprend la victoire de Maldonado, mais...
Je veux dire la chance gâchée de Hamilton.
Je dirais le bon week-end d'Alonso, la bonne course.
La bonne course ou le bon week-end?
Pour le bon week-end.
Ouais, ça c'est ce que j'ai fait des nuances.
Hein. Ah, oh, écoute, sur des nuances, hein. Donc pour le fait marquant du Grand Prix d'Espagne, nous vous proposons trois choix. Soit la chance gâchée d'Hamilton, le bon week-end d'Alonso, ou bien le retour en grâce de Williams. Donc rappelons que pour voter, soit vous nous écoutez directement via le site, hein, ou grâce au site. Et normalement, vous avez peut-être déjà voté, puisque c'est juste en dessous, dans l'article hein, consacré au SAV. Et donc si vous nous écoutez peut-être par rapport à iTunes, n'oubliez pas d'aller sur le site fanf1.com. C'est tout?
Pour le moment, oh, non, faut que j'arrête. À chaque fois qu'il la sorte, là. Faut que je me recycle.
Je sais qu'il la sorte, en plus. Sinon, tiens, on peut peut-être juste évoquer, puisqu'on a fini un peu la course, évoquer un événement qui s'est passé après la course.
Nous avons perdu Ben, d'ailleurs.
Mais, bon, apparemment, il n'y a pas eu de victime, hein. Il semblerait qu'il n'y ait plus qu'une personne qui était...
À part Ben! Et mais Ben! Bon d'accord, c'est un Belge, mais quand même, c'est un être humain.
Non, il y a plus qu'une personne apparemment à l'hôpital hein, en Espagne.
Et c'est bientôt en Angleterre.
Voilà, parce que apparemment il a été blessé, mais la majorité des blessés, ça a surtout été des problèmes un peu pulmonaires, bien évidemment avec la fumée, mais rien de trop grave. Le problème finalement, c'est peut-être le côté matériel.
Est-ce que les monoplaces ont été touchées?
Alors, il y a un châssis qui a été touché, puisque la voiture de Maldonado, elle, était en parc fermé.
Ah oui, ouais.
Il y a forcément.
La voiture de Senna, mais apparemment, le feu a pris plutôt du côté du garage de Maldonado. Enfin, donc, la voiture de Senna a pas trop trinqué.
Il va quand même falloir qu'il regarde
le châssis
pour voir ce qu'il en est. Faut quand même être prudent hein, par rapport à ça. Par contre,
les dégâts sont évalués à 3 millions ou un peu dans le genre.
Par contre, il y a tout le matériel annexe. Alors là... Alors apparemment au début, hein, sur le jour même quand c'est arrivé, il y a eu des hypothèses sur le KERS. Apparemment ça ne serait pas à cause du KERS.
C'est une machine qui a fait du ravitaillement, je crois, qui a fait une étincelle.
Oui. Alors il y a explosé. Aussi une rumeur comme quoi il y a quelqu'un avait fumé dans le garage et Williams a tenu à publier un communiqué comme quoi ce n'était pas dû à une cigarette.
Oui, ils ont parlé de l'essence, donc peut-être. Alors il y a eu des images, hein, parce que vous pouvez voir d'ailleurs sur FanF1, il y a la vidéo, puisque la BBC a filmé.
Oui, c'était en direct à ce moment-là.
Voilà, la BBC se baladait paisiblement dans le paddock. Bah, tout d'un coup, oh, de la fumée, sans doute un barbecue.
Ah bon? C'est Eddie Jordan qui fait, qui on voit, c'est un incident, il discute, il y a Eddie Jordan qui monte le doigt.
Il y a quelqu'un. Oui, c'est drôle.
C'est chez Caterham ou Force India, je sais plus qui. Ils arrivent, et non, c'est chez Williams que ça crame. Et d'ailleurs, on a vu que c'était surtout les gens de chez Williams, et même d'autres équipes qui faisaient les pompiers.
Sur la vidéo, on voit pas un seul pompier, c'est vrai.
Voilà, on voit pas un seul pompier.
Et on voit pas, bon, pour une fois, on voit quand même que même si c'est des équipes ennemies, il y a une bonne entraide entre eux, et on voit tous les mécaniciens des garages voisins qui viennent aider.
De toute façon, il faut bien, parce que t'imagines, si jamais ça prend de l'ampleur...
Mais ce qui était très étonnant, c'est que à la limite, bon, qu'il y ait des mécaniciens Toro Rosso ou Caterham, bon, ça se comprend, mais il y avait par exemple des mécaniciens de chez Ferrari. Voilà, donc c'est quand même des mecs qui sont à l'autre bout de la pit lane, qui sont quand même venus. Donc c'est pas seulement c'est pas seulement les voisins qui étaient un peu préoccupés pour leur propre matériel, c'est un peu
ceux qui se sont concernés en fait.
Voilà, non, c'est vraiment tout le monde dans la pit lane qui s'est mobilisé en disant voilà, faut qu'on aille aider Williams. Puis je pense que en plus dans le contexte où ça se passe avec la victoire de Williams, que tout le monde était très content. En plus, je crois que c'est le deuxième Grand Prix où Frank Williams est dans le paddock où il s'était fait plutôt rare. Oui. Donc,
puis en plus, enfin, on sait, vous l'avez peut-être vu, ça a vraiment été un week-end très spécial pour Williams puisque en plus, c'était pas la date même, mais c'est ce week-end-là qu'ils ont décidé de fêter l'anniversaire de Frank Williams.
Ouais, c'était pas hier, ans, c'était pas samedi.
C'est pendant le week-end, je crois, la date exacte. Hein.
Il me semble que c'est samedi, parce qu'ils ont fait une fête samedi. Même Charles Pic, il a été invité chez Frank Williams.
Mais de toute façon, ils l'ont dit, tout le monde, il y avait tout le paddock, quoi. Même les gens qui sont jamais passés chez Williams, ils y étaient.
TF1, il se l'a pété avec ça pendant, je crois que c'est au Calife ou aux essais, qu'ils étaient invités aussi à la fête. Puis à la fois, ils ont dit ouais, on est invités et tout, genre.
Alors, étonnamment, alors, je sais pas, peut-être que la date est fausse, hein, mais sur Wikipédia, j'ai une date en avril, c'est pour ça m'a un peu étonné. Alors je sais pas, est-ce que c'est justement comme il peut pas vraiment se déplacer Non mais c'est vrai, comme il peut pas aller, comme il va pas sur les circuits extra-européens, tu comprends? C'est le premier Grand Prix européen, le premier où il se déplaçait.
Mais j'étais pas déjà déplacé à Bahreïn?
Je suis pas sûr, c'est possible, hein, parce que moi la date que j'ai c'est le 16 avril, donc on est quand même un peu éloigné quand même du 13 mai, quoi.
Ouais. Pendant tout le week-end, j'ai vu dans le garage Williams, il y avait FW70. Je fais, attends, mais...
C'est quelle voiture?
C'est la 34, la voiture. Attends, quelle voiture il parle? Et non, en fait, c'est Frank Williams, 70 ans. Ah, d'accord.
Donc aujourd'hui, la grande question pour Williams, c'est surtout, quels vont être les moyens pour Monaco? Parce que beaucoup de choses ont été détruites. Et là encore, il y avait déjà, bon, on l'a dit, hein, les actes en eux-mêmes pendant l'incendie, mais il y a eu aussi un bel élan de générosité des autres équipes. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils n'ont pas dit, oui, on va vous filer tout ce qu'il faut. Non, ils ont dit, on va vous filer des choses pour que vous ayez le minimum.
Bah oui.
Mais ils pourront pas courir s'ils n'ont pas le matériel.
Oui. On sait par exemple que les anciens mécaniciens de chez Williams, notamment chez McLaren, ont décidé de donner des combinaisons et du matériel de protection aux mécaniciens de chez Williams.
Ça risque d'être, j'allais presque dire drôle, c'est risque d'avoir un aspect un peu bariolé à Monaco, quoi, entre les tenues,
oui.
Peut-être des cadres, d'autres équipes, peut-être que des, je sais pas, les murets, les installations vidéo viennent pour d'une autre.
Enfin, il y a deux semaines quand même, ils ont quand même le temps de renvoyer du matériel vers Monaco.
Ils ont dit qu'ils avaient de toute façon déjà un certain nombre de matériel qu'ils pouvaient amener à Monaco. Hein. Ils sont pas sans rien, non. Dino, on va passer au concours.
Oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Alors, le concours Top Position. Rappelez-vous la question d'il y a 3 semaines, vous était posée par Gus Gus, et il s'agissait de savoir combien de Grands Prix de Formule 1 ont eu lieu en Catalogne. Avez-vous la réponse?
Non, je n'ai pas cherché.
Tu sais bien que je ne cherche jamais les réponses, mais je peux dire qu'il ne fallait pas tomber dans le piège qui ce serait de compter que les Grands Prix sur le circuit de Catalogne.
Oui, il y en a eu 21, plus celui de cette semaine.
Mais on ne le comptait pas.
Ouais,
on l'a, en plus, on l'a précisé. En plus, on l'a bien précisé.
C'est pour ça que j'ai dit plus, j'ai dit.
Ne t'énerve pas!
Mais non, mais
dès le 15 mai, la France change, soit détendue!
Oui, non, quand même!
Il faut compter les circuits, alors, à Montjuïc, qui, comme son nom l'indique, est sur une colline. Montjuïc.
Non, mais c'est vrai. C'est à Barcelone.
C'est à Barcelone, oui.
Et d'ailleurs, le circuit n'existe plus parce que c'est le village olympique aujourd'hui.
Oui.
Enfin, ça a été le village olympique.
Et d'ailleurs, le circuit de Montjuïc Park, il y avait alors, je sais pas si c'est la ligne des stands en soi, mais, il y avait une partie du paddock dans le stade. Parce que le tracé passait juste à côté du stade.
C'est rigolo.
Mais il faut aussi compter un troisième.
Oui, sur deux grands prix.
Voilà, parce que les premiers grands prix d'Espagne ont eu lieu à Barcelone, j'allais dire Monaco, je suis à Barcelone, et c'est le circuit de Pedralbes.
Voilà.
Dont la ligne droite, quand même, c'était la Avenida del Generalissimo Franco.
Oh. Oula. Et après on va à Bahreïn.
C'est voilà, histoire, tu te souviens, on l'avait évoqué à Bahreïn, de se dire mais bon, comment ça? Bah oui, voilà.
Et puis ouais, le tracé était pas terrible quand même. Hein. Je suis en train de le regarder.
Non, c'est vraiment.
Bah, c'est un tracé très des années 50. Hein,
voilà.
Donc ça nous fait un total de 27. Et je rappelle à notre ami Globen que Valence. Et dans la communauté de Valence, et pas en Catalogne.
Comunidad de Valencia.
Voilà. Et je rappelle à Adelin que il n'y a pas que le circuit Catalunya en Catalogne. Voilà. Puisqu'il nous envoyait des réponses, mais qu'elles étaient pas bonnes. Mais sinon, nous avons eu 4 bonnes réponses.
Oh, bah disons, et en tout, ça fait 6, c'est beaucoup, merci.
Et comme Clément, visiblement, je pense que tu n'as pas participé.
Non, j'ai fait celui de Bahreïn, mais là, j'avais pas eu le temps.
Ah, c'est bien, tu vas pouvoir choisir avec moi.
Voilà, donc je vous pose... bon là, inutile que je m'attarde sur les réponses. Hein. Il n'y a pas eu d'originalité, et je ne m'en plaindrai pas.
C'est bien.
Et donc, je vous pose les 4 questions, à savoir...
Qui concerne donc Monaco.
Qui concerne donc Monaco. Quel est le dernier pilote de Formule 1 à avoir fait un plongeon avec sa voiture dans le port de Monaco, et lors de quelle édition du Grand Prix? Deuxième question, combien de fois Ayrton Senna est-il représenté sur les affiches officielles du Grand Prix de Monaco?
Oula.
Troisième question. Lors du Grand Prix de Monaco, qui vit Tony Stark s'aligner au départ, combien de monoplaces furent détruites lors de l'incident provoqué par Ivan Vanko?
Oula.
Et enfin, quatrième et dernière question. Lors du Grand Prix de Monaco 2004, quel pilote a été hué par le public après la fin de ça? Alors.
Je vérifie un peu parce que.
Je vais m'amuser, je vais entourer celle que je pense que Shitty va choisir.
Elles sont quasiment toutes bien chiantes quand même. Hein.
Ah, 2004, c'est pas. Je pensais à un truc, mais c'est pas ça. Les deux du milieu sont super durs. Ça,
c'est ce voilà. C'est ce que je pense aussi.
Super dur.
J'aime bien la première, moi.
La première, c'est quoi, rappelle-nous?
Les monoplaces qui font plomb plouf dans le, oui. Dans le port.
Et le dernier pilote de Formule 1 à avoir fait un plongeon avec sa voiture dans le port de Monaco et lors de quelle édition du Grand Prix?
Oh ouais, si c'est ce que je pense, c'est assez connu pour être trouvable.
Ouais, puis je trouve ça rigolo, quoi, c'est pas...
Ouais,
c'est...
bah oui,
Alors, un indice, ce n'est pas ce que tu penses.
Ah, bah c'est encore mieux. Donc, ça veut dire qu'elles sont trois à être super vicieuses.
Donc, alors, moi, je suis content, ça, c'est la question que j'étais sûr que tu choisirais. Donc, nous allons remercier quand même Steve qui nous posait la question de savoir combien de fois Ayrton Senna était-il représenté sur les affiches officielles du Grand Prix de Monaco.
On peut aller sur ça.
Il fallait trouver les affiches, hein, elles sont assez facilement trouvables quand même.
Et
en fait, c'est 5 sur les affiches de 88, 89, 91, 92 et 94.
Ah, et il est clairement identifiable ou t'as parfois des pilotes McLaren?
Alors, peut... non, c'est, il est clairement identifiable et c'est quand même à noter, c'est qu'il a été sur l'affiche du Grand Prix de Monaco 94.
Eh oui.
Voilà. À noter que sur l'affiche de 93, on voit une McLaren, mais on ne peut pas dire avec certitude qu'il s'agisse de d'Ayrton Senna.
Je regarde. Hein, c'est... ah, c'est. Attends. Ah non, même dans le rétro, on peut pas. Ah non, c'est. C'est pour ça. Alors, hein, c'est très très vicieuse, hein, celle-là.
Alors ensuite, dans la question lors du Grand Prix de Monaco 2004, quel pilote a été hué par le public après la fin de sa course? C'était une question qui était proposée par Bilo. Il s'agissait de Takuma Sato qui avait abandonné en début de course suite à une casse mécanique, mais où il était resté, je crois, deux tours en piste, faisant bien chier son monde. Et enfin, saluons l'effort d'Adrien qui a dû subir Iron Man 2. Qui se posait la question lors du Grand Prix Monaco qui vit Tony Stark s'aligner au départ, combien de monoplaces furent détruites lors de l'incident provoqué par Ivan Vanko?
Et là, et encore, c'est super, là encore c'est super dur parce qu'il faut avoir vu le film et même en ayant vu le film sur toute la réponse.
Après il y a YouTube quand même pour vous aider, hein.
Ouais.
Il fait, donc le vilain fait irruption sur la piste et détruit 5 voitures avant de s'attaquer directement à Iron Man.
Qui roule en F1 historique, si je me rappelle bien, en discipline historique.
Et donc enfin, saluons pour sa brillante question, puisqu'il a été choisi. Bravo Germain.
Bravo.
Tu as gagné. Et donc Germain, nous rappelons que tu as gagné un...
Germain, as-tu déjà gagné?
Je ne sais pas.
Ah,
tu vois Germain, j'ai envie de dire que en cette journée d'investiture de François Hollande et de visite en Allemagne,
oui,
tu portes bien ton nom. Ce jour, c'est dédié.
Oui, voilà.
C'est la journée des Germains.
Oui, puis notre premier ministre est prof d'allemand, donc voilà, t'es raté.
Ouais.
Donc bravo Germain, je rappelle que tu gagnes un petit bout de papier avec le drapeau espagnol dessus et ton nom, qui sera au centre du tirage au sort en fin de saison au mois de novembre quand on spellera les miches avec Shinji. Donc, généralement, reconnaissons Shinji qu'on spelle
les miches. Ouais.
Alors, je rappelle la question, quel est le dernier pilote de Formule 1 à avoir fait un plongeon avec sa voiture dans le port de Monaco et lors de quelle édition? Petit indice, la réponse n'est pas évidente. Voilà, et pour cela, vous envoyez votre réponse à concours@savf1.fr en pensant que ce sera une question sur le Canada, donc Grand Prix du Canada, ou le
Sirop des Rats. Les questions sur Garou ne sont pas acceptées.
Oui, et donc vous pensez à nous joindre une question donc sur le Canada et la réponse qui va bien avec et qui fait joli dans le mail, voilà. C'est tout.
Ok, ben dans ce cas-là, on va se tourner vers la prochaine course. Et quelle course?
Ah ouais.
Une demi-heure de la saison.
Le diamant de la F1.
Voilà.
D'ailleurs, on le cherche toujours. Le diamant.
C'est vrai. Mais cette question, Shinji. Imagine que tu es quelqu'un de qui n'aime pas la Formule 1.
Mais vraiment pas du tout.
Hein, au point que tu l'aimes tellement pas que même le plus beau Grand Prix de la saison, tu le regardes, tu veux pas le regarder.
Ce qui est déjà une preuve de mauvais goût.
Que pourrais-tu faire dans 10 jours, entre 14 et 16 heures, si on n'aime pas la Formule 1?
Ça, Germain va nous le dire.
Non, Clément.
Mais Germain pourrait aussi nous le dire.
Bon, alors, Germain, nous attendons tes réponses, tout ce qui est démerde-toi. Ah, bon, bah, je savais.
Non, vas-y, Clément.
Bon, alors, pour commencer, je sais pas, regardez Louis la Brocante sur la 3, qui passe exactement en même temps. Il y a aussi Aller au cinéma.
Il n'y a pas Texas Ranger, donc...
Que si aller au cinéma, il y a des bons films genre Avengers, tout ça.
Oh non.
Il y a aussi faire la
fête. Non. Il y a Iron Man, excuse-moi, il y a Iron Man, mais il est bien le film.
Non, mais non, bien. Non. C'est un bon film popcorn, d'accord.
Oui,
mais allons pas dire un bon film. Il y a d'autres bons films à voir en ce moment.
Vous savez, oui, il est oui, à voir Avengers. Non, mais il est bien, on passe un bon moment.
Oui, on passe un bon moment, mais c'est pas un bon film.
Elle était bien.
C'est un film que tu regardes son cerveau, tu comprends quand même, en fait. Oui,
voilà. Voilà, tout à fait.
C'est pas Prometheus, c'est pas Dark Knight Rises. Ok, mais c'est un bon enfant.
Bon, autrement, il y a aussi Fin la sieste au son des F1. Tu t'endors, tu mets la télé, tu t'endors devant. Ça marche très bien aussi.
Pas la F1, est-ce que ça marche le bruit de la F1 pour t'endormir?
Oui, j'ai déjà fait le test avec des copains, ça marche.
Mais est-ce que tes copains aimaient la F1 ou pas?
Bah non, justement pas. Voilà. Il voulait regarder un pour tester et il s'est endormi.
Tu peux la réponse à dire.
Il y a aussi.
Est-ce que tu as la preuve scientifique que c'est le bruit qui les a fait s'endormir?
Ah non.
Ah,
d'ailleurs, c'est un truc. Il avait regardé le Grand Prix de Monaco ou un autre truc?
Je sais plus.
Non mais c'est vrai. Non mais c'est à noter. Je veux dire, si vous avez des gens qui se disent tiens, j'ai envie de regarder un Grand Prix de F1, mais lequel par lequel commencer?
Pas Barcelone, pas Abu.
Non. Monaco, c'est bien.
Tu te fais chier toi, quand même, des fois.
Ouais, mais c'est Monaco.
J'ai aussi mis aller boire un café avec des copains, sortir quoi.
Oui.
Est-ce que les cafés sont ouverts le dimanche après-midi?
Ah oui.
Bon, c'est possible, hein. Si tu veux dans le centre-ville, ça doit se faire, hein.
Dans le centre-ville de Rennes, c'est de faire croire qu'il y a des cafés ouverts.
Rennes.
C'est trop du cul du monde, Rennes.
Attends, merde, Rennes.
Bon, la nuit, on sait, c'est Rennes, hein. Voilà. Donc,
voilà. Bon, autrement.
La ville des Allez, je la refais ça. Je m'en viens plus.
Ce qui serait bien, c'est que tu la gardes au moins une fois au montage de vannes pourries pour que les auditeurs comprennent vraiment ton humour tout pourri.
Je crois qu'ils ont compris. Voilà.
Ouais, mais pour qu'ils disent vraiment une fois pour toutes, ouais, c'est vraiment nul quoi ces vannes.
Il est désespéré, ça mec. On le saura pas.
J'ai aussi mis, faire un footing, faire du sport. Quelqu'un motivé.
On n'a pas déjà eu ça, Shinji.
Mais en même temps.
Faut que tu suives, Shinji, faut que tu prennes des notes.
Oh là là.
On va arriver en fin de saison, ça se trouve.
Je suis très optimiste, hein, parce qu'il part du principe qu'il fera beau temps dans 2 semaines.
C'est vrai.
Et aller au ciné, faire un footing.
Enfin, je voudrais pas être le. Si tu notes, je veux pas être le mec qui va faire le Grand Prix du Brésil ou d'Abu Dhabi là-bas. C'est bon courage pour trouver des idées. Hein.
Ah, mais les horaires sont décalés, il y a d'autres choses à faire à ce moment-là.
Ouais.
C'est le mec qui fera le Grand Prix d'Italie qui aura l'air con. Ou le mec qui fera Singapour, tu vois. Mais vraiment, ils ont fait.
Bon, autrement, j'ai mis parier sur la dernière journée de foot.
La dernière journée de foot. Mais dans quel
pays? De Ligue 1. Je crois que c'est le week-end de Monaco.
C'est ce week-end.
Non, j'ai vérifié.
À la limite, c'est vrai que parier sur des matchs qui ont eu lieu la semaine d'avant.
C'était gagné.
Ça, ouais, c'est tout bon. Les gars, parie que Montpellier sera titré.
Oula, c'est vrai, c'est ce qu'il y a.
Moi, je pensais à la Ligue 1 en disant ça.
Mais le problème, c'est que la Ligue 1, ça marche pas puisque ça sera terminé.
Ah, je crois qu'ils seront tous terminés, tu sais.
Bah, je me suis planté. Je crois que c'était ce week-end-là.
C'est pas grave. Paris, les matchs de l'Euro, voilà, c'est bon.
Ouais, ou ça, ouais. Et autrement, bah, ça fait 7, donc je crois que c'est tout.
Eh ben, c'est une belle production, hein, pour les gens qui ne sont pas fans de Formule 1, mais qui sont fans de café, de football, voilà, ou de bruits bizarres qui servent à s'endormir. Je pense que c'est une belle chronique. Merci.
Nicolas Sarkozy, voilà. C'est un peu le portrait de Nicolas Sarkozy. Là.
C'est vrai.
Sinon, donc, cette prochaine course, qui va la gagner? Est-ce qu'on aura un 6e pilote?
Ce serait bien. Ça mettra encore plus.
C'est loin d'être impossible.
Ça mettra encore plus de suspense pour la suite de la saison.
Ça n'est jamais arrivé, hein. Le record, c'est 5. Alors, 5 avec 5 équipes différentes. Ça a été dit, c'est 83.
Ouais.
Et 5 pilotes, mais pas forcément 5 équipes.
2003, non?
Oh non, c'est beaucoup plus vieux. Il y a eu 67,
non.
15.
Ouais.
Ouais. Et par contre, 6 pilotes différents, ça n'a jamais été fait.
Ça,
moi, j'ai envie de dire Kimi.
C'est... Ah, ouais. Voilà. Lotus, ouais.
Ouais, déjà parce qu'une Lotus, et quitte à revenir sur cette première nouvelle victoire, Monaco. Comme ça, il gagne, il prend le trophée et il part sur son yacht, direct.
Et toi, Clément?
Mais je pensais aussi une Lotus, pas forcément Kimi. Pourquoi pas Romain?
Qui donc alors?
À ton avis. Pourquoi pas Romain? Parce que je suis chauvin et que j'aime bien Romain. Mais autrement, je sais pas trop autrement. Hamilton aussi, ça serait pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fait depuis le début de la saison, ça lui rendrait tout ça, paierait ses efforts. Autrement, je sais pas. Je vois pas Fernando, c'était à Monaco. Et Button, je pense qu'il va avoir encore du mal, avec sa voiture à Monaco.
Et toi, Dino?
J'hésite entre Charles Pic, Pastor Maldonado
et Lewis Hamilton.
Non, je pense sincèrement Hamilton. Voilà, il a la voiture pour faire la pole. C'est quand même un énorme avantage. Si je gouffre pas dans les stands et si la voiture est bien adaptée au circuit, normalement ça devrait le faire, je pense.
Je regarde si on a déjà la météo pour Monaco.
Oh, allez, non, j'ai dit.
Putain, un peu.
Ah, l'information super fiable.
Non, mais qu'on ait déjà une petite idée, mais.
Les mecs, ils avaient dit, aujourd'hui, il fera très beau sur Paris. Vous allez voir. Il fera en soleil.
En soleil, toute la journée. Ne prévoyez pas de costume de rechange.
Non, voilà.
Mais si on arrive à la fin de cette émission, est-ce qu'on a cité toutes les adresses qu'on doit citer? On a oublié de rappeler celle du répondeur.
Oui, le répondeur @savf1.fr. Et rappelons quand même que si nous acceptons par moment les catalogues de questions et les questions un peu décalées, on va pas non plus ne faire que des questions décalées.
Voilà.
Donc on est en ce moment un peu en recherche de questions normales. Voilà. Donc.
Dites-vous qu'une question normale aura beaucoup plus de chances de passer qu'une question décalée qui sera. On va faire le tri, quoi. Hein. Soyons honnêtes.
Puis sinon, pour participer donc la semaine prochaine, vous en trouverez avec un mag. Hein. On ne sait pas avec qui. Peut-être qu'il y aura le retour de Ben. On ne sait pas. On arrive à le rapatrier en France. Enfin, en Belgique. Et puis si on le rapatrie vivant, surtout, c'est ça le truc. Parce que là, paix à ton âme, Ben. Donc, dans 15 jours, Grand Prix de Monaco, si vous êtes volontaire ou pour n'importe quel Grand Prix dans la saison, vous pouvez faire comme Clément, contact@savf1.fr. Hein. Clément, tu peux témoigner, c'est super simple de participer au SAV.
Ah oui, c'est pas difficile. Hein. J'ai été seul à me présenter, donc...
Vous étiez des milliers à postuler et on t'a choisi.
Oui, voilà. Je suis l'élite.
Voilà. Donc, rappelons que... On nous retrouve.
La F1 sur Fan F1. C'est, non, la merde. Ah!
J'allais parler d'iTunes, mais c'est pas grave. Donc, vous nous retrouvez sur iTunes. N'oubliez pas, si vous pouvez nous peut-être mettre une petite note de 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Sinon, oui. Comme d'habitude, hein, on est sur le site de Fan F1 parce que la F1 sur Internet, c'est sûr.
FanF1.com.
Merci Clément. Je voulais laisser Clément parler, parce que Clément.
Ouais, vas-y.
Les lecteurs. Oh, fais pas genre, c'est une phrase super compliquée à retenir.
T'as du mal. On va voir s'il est à la ramasse. Dino, par quoi qu'est-ce qu'on finit comme d'habitude?
On va finir par un petit proverbe, par une petite citation. Voilà. J'ai cherché un proverbe vénézuélien. Et voilà, j'ai tenté plusieurs trucs, il y avait des pistes assez sympas. J'étais même parti sur une parodie de Allumer le feu de Johnny Hallyday, voilà. Hein, qui commençait « Ouvre les portes du garage !» Voilà. Et je trouve qu'en faisant ma recherche, je suis tombé sur une citation de Jean-Pierre Pernaut.
Oh.
Et je me suis dit, fallait que je vous la fasse partager, parce que c'est tellement beau.
Allez, voilà. Oh.
On va finir là-dessus, c'est vraiment juste un pur moment d'émotion, puis c'est l'occasion de rendre un grand hommage au travail que fait TF1 pour couvrir les Grands Prix. Voilà. Oui, je suis vendu au capital, je sais. Et donc, dans une interview accordée à Télérama en 1998, wow. Notre ami Jean-Pierre Pernaut, vous savez, l'homme qui vit à Louviers et que tout le monde s'en fout, déclarait « Le Trésor est le journal des Français qui s'adresse en priorité aux Français et qui donne de l'information en priorité française. Si vous voulez des nouvelles sur le Venezuela, regardez la chaîne vénézuélienne. Si vous voulez des nouvelles sur le Soudan, regardez les chaînes africaines. » Le journal de 13h de TF1, c'est le journal des Français.